Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Une émission du 4 décembre 1991, rediffusée dimanche 9 mai 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Et bien voilà. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Mme Victoria. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir mon cher Pierre Meunier.
Mon cher Serge.
Je suis ému de t'avoir à côté de moi, c'est une chose rare.
Et bon, je suis heureux en plus même.
Et par conséquent, elle m'est chère, puisque ce qui est rare est cher. Mon commandant, bonsoir.
Bonsoir.
Il faut que vous parliez bien dans le micro. Je
dis
bonsoir au commandant Raymond Muel, qui est un de mes invités ce soir. Pour deux livres qu'il a écrits, l'un qui s'appelle, enfin qui est un album consacré à l'épopée de la première armée, et l'autre qui est un livre qui a fait un certain bruit lors de sa parution il y a quelques mois, et qui est toujours en vente et que dont je vous recommande tout à fait la lecture, puisqu'il s'agit d'un livre consacré au bataillon des réprouvés, dont je vous remercie, mon commandant, de nous rappeler le titre parce que je ne l'ai pas sous les yeux, c'est
Le bataillon des réprouvés.
Tout simplement, le bataillon des réprouvés aux presses de la cité. Alors, le bataillon des réprouvés, qu'est-ce que c'est? On le verra tout à l'heure. Et nous attendons un autre auteur de souvenirs, qui n'est autre que notre excellent camarade Christian de la Mazière.
Pour son livre,
Le rêveur casqué, et non pas l'inverse. C'est un livre qui est réédité, après des années. Il avait été épuisé et finalement il a été réédité, ce qui est une très bonne idée parce que c'est un témoignage particulièrement fort et particulièrement provocateur par les temps qui courent. Et je trouve que Christian avait déjà eu du courage de l'écrire, il a encore plus de courage de le faire rééditer dans l'ambiance actuelle.
C'est pire maintenant qu'à l'époque où il l'avait écrit.
Oui, bien sûr. Alors on verra avec le commandant qui lui avait choisi l'autre camp. On parlera de cette période particulièrement agitée, mais particulièrement intéressante de l'histoire de France. Et puis avec Pierre Meunier, tout à l'heure, peut-être, si Dieu veut.
Mais je veux.
Oui, mais toi, oui, mais nous évoquerons la mémoire d'un disparu qui ne fait pas l'unanimité à Radio Courtoisie, parce qu'on avait consacré, tu te souviens, une émission à ce grand bonhomme, et j'avais eu quelques reproches d'auditeurs, disant que ça n'était pas quelqu'un de la famille, et que notre admiration pour lui, ou notre sympathie, ou notre amitié, était pour le moins surprenante, mais tant pis, on refera.
Nous ne sommes pas des sectaires.
On n'est pas des sectaires, on n'est pas branchés. Vous le saurez pas, Philippe, c'est pas la peine de me dire qui c'est, je vais vous le dire dans une minute, mais vous le saurez pas avant les autres. Parce que j'aurais écouté ces chansons tout à l'heure dans la voiture, et c'est quand même quelqu'un, il faut dire que, oh là là, c'est un grand bonhomme.
À l'évidence. Hein,
c'est un grand poète, c'est un grand diseur, et c'est un très très bon musicien, contrairement à une légende.
Mais oui.
Et il s'agit de Monsieur Georges Brassens. Bon, donc on peut y aller, Philippe, d'accord? Bon, Philippe est d'accord, donc ça va.
C'est très bien.
L'aile droite de l'extrême droite.
Nous avons l'imprimature.
Donc on écoutera un peu de quelques chansons de Georges Brassens et on en parlera avec Pierre Meunier, qui nous racontera un petit peu des choses sur lui. Avant de commencer cette émission, nous attendons également Serge Martinez, qui viendra tout à l'heure. Donc avant de commencer cette émission avec Christian de la Mazière, je voudrais vous parler, alors je ne vais pas faire une opération de mendicité, je vous rassure tout de suite, mais je voudrais attirer votre attention sur un cadeau de Noël qui me paraît particulièrement bienvenu cette année. Je ne sais pas, Victoria, si vous connaissez le père Labaki.
Non, alors,
si vous ne connaissez pas le père Labaki, c'est exactement comme si vous manquiez un œil. Mais oui, connaître le père Labaki, c'est une chose indispensable pour avancer sur ses deux pattes. Ça fait, vous savez, je sais qu'il va, j'espère qu'il écoute pas, parce qu'après il viendra m'arracher une oreille. Mais c'est pas souvent qu'on rencontre des saints ou des choses, des personnages qui semblent s'en approcher. Et lui, quand même, ça doit pas être très très éloigné de ça. C'est un prêtre libanais. Vous allez dire que je fais une fixation sur le Liban, mais moi j'ai mes passions. Et qui vit en France. Et qui s'occupe d'orphelins. Alors, encore les orphelins libanais. Oui, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années, à peu près, que ce pays
oui,
est en guerre. Et il y a eu quelques orphelins, il faut bien dire. Et alors, ils ont besoin de nous, parce que c'est un pays qui est dans la misère. C'est un pays qui a vécu une tragédie. Et c'est un pays qui est un pays... c'est un petit frère, ou c'est un pays enfant de la France, en réalité. Donc je considère que nous avons un devoir d'attention et de oui, oh ben c'est joli ça. C'est Christian de la Mazière qui entre et qui embrasse Pierre Monnier. C'est absolument dégoûtant.
Nous avons même ému.
Oui, t'es ému, mais c'est quand même dégoûtant. Nous avons un devoir de solidarité et d'amitié avec le Liban. Et alors le père Labaki a en France un orphelinat pour des enfants libanais qui lui dévore l'existence. Et il a écrit un conte de Noël. Noël aux confins de la tente, qu'il a eu l'excellente idée de faire enregistrer sur cassette par Jean Pia, que nous connaissons, qui a été souvent reçu, je crois, sur cette radio. Et alors, cette cassette, je suis en train de demander à Patrick de venir la chercher, parce que je voudrais que vous nous en écoutiez, merci, les premières paroles. Donc, il s'agit d'un conte de Noël écrit par le père de Labaki, enregistré par Jean-Pierre, et que vous pouvez, c'est très joliment présenté dans une jaquette, genre jaquette de vidéocassette. Vous avez, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Lamazière, vous avez un commentaire à faire? Non, merci. Oui, bah oui, mais c'est comme ça, ça ressemble à une vidéocassette. Donc, vous avez dedans deux... une cassette qui est le conte en question et un livre illustré de très jolies aquarelles en couleur. Les aquarelles en couleur, c'est quand même assez exceptionnel. Et vous pouvez, les enfants peuvent donc écouter ce conte de Noël tout en regardant les aquarelles et en lisant le texte. Ça vaut 95 francs. C'est donc un cadeau idéal pour des enfants que vous n'aimez pas beaucoup. Hein, cadeau de 100 francs pour Noël, ça s'offre à des neveux, par exemple.
Mais qu'est-ce que c'est ça, cette façon de parler?
Mais si 100 francs, mais 100 francs, c'est pas beaucoup, donc c'est pour les enfants qu'on n'aime pas. Pour les enfants qu'on aime, on dépense beaucoup.
Vous pouvez toujours faire plusieurs cadeaux, vous avez le droit.
Ah oui, non, mais c'est autre chose. Voilà. Mais si vous voulez faire un seul cadeau, c'est parfait pour un enfant que vous n'aimez pas. Enfin bon, voilà.
Bon,
il faut faire court, c'est ça. Non, bon. Alors, je voudrais vous faire écouter le début du conte de Noël. Patrick, est-ce qu'on peut écouter la voix de Jean-Pierre?
Noël aux confins de la tente. Décembre glissait tel un cygne rêveur sur un lac argenté. Décembre, le roi de l'année, avec sa pelisse et ses moufles de givre, ses babouches poudreuses et son sceptre de cristal, et son Noël, tout là-bas aux confins de la tente, floconneux et scintillant comme une aile d'angelot. Noël si lent et si long a effeuillé les jours qu'il semblait cheminer au bout de l'infini. À plat ventre devant sa crèche, un petit garçon songeait. Il s'appelait Milad, parce qu'il était né le jour de Noël. Il avait 6 ans, des boucles d'ébène, des joues vermeilles et veloutées, à rendre pâle de convoitise les pêches de son verger. Des yeux noirs, plus brillants qu'une onde au clair de lune. Un petit nez effronté à souhait, une hardiesse à faire frémir d'inquiétude les écureuils des bois, et un cœur aussi grand que son vert pays, tout en montagnes peuplées de sources, se mirant dans la Méditerranée.
Croyez quand même pas que je vais vous le passer en entier, parce que...
On était bien parti.
Je vous connais, vous enregistrez, puis après le père Labaki, les 100 francs, ma cache. On dit Macache,
Macache
Bodo même. Alors si vous voulez connaître la suite, on en écoutera un autre petit bout tout à l'heure pour vous rappeler quand même que c'est une bien belle chose. Mais si vous voulez avoir la totalité de la cassette d'un seul coup, avec le recueil d'aquarelles y afférent, vous pouvez commander cette cassette, enfin ce joli cadeau de Noël, à Lautédal. Alors c'est bien sûr c'est très compliqué. Lautédal, c'est L-O trait d'union T-E-D-H-A-L, qui veut dire ne crains pas. 33 rue des Épinettes, 75-017 Paris. Et naturellement, la totalité des sommes recueillies servira à sera versée à l'enfance meurtrie du Liban, sera versée à l'orphelinat dont s'occupe le père Labaki, que je salue au passage. Voilà. Nous y reviendrons tout à l'heure, je vous rappellerai à la fois l'adresse et la nature de ce cadeau qui me paraît idéal pour Noël. Et alors Philippe Varlet faisait remarquer hors antenne fort justement que, étant donné que je vous disais, s'il faut que ce soit un enfant, vous n'aimez pas beaucoup parce que 100 francs c'est pas cher, mais même s'il y a deux enfants, vous pouvez offrir à l'un le recueil d'aquarelles et à l'autre la cassette. Donc vous pouvez faire deux cadeaux pour 100 francs.
Je ne vous ai jamais connu si économe, Serge.
Non, parce qu'on m'a reproché de faire de la mendicité à l'antenne. Oh. J'essaye de faire des économies aux auditeurs. Voilà. Christian de la Mazière, bonsoir.
Bonsoir, Serge.
Alors, est-ce qu'on fait semblant de se vouvoyer ou est-ce qu'on...
Non, on va se tutoyer. On se connaît depuis...
Alors, tu étais hier à la télévision.
Oui, spectacle tout à fait extraordinaire, étrange et étonnant.
Commandant Muel, est-ce que vous avez vu cette émission hier?
Non, j'étais en train hier soir et je n'ai pas vu la télévision hier soir.
Bien. Alors donc, nous allons être obligés de... Pierre, tu l'as vu?
Mais non, moi j'étais au Turbin.
Ah bon, à Victoria.
Moi j'étais au Turbin, je faisais une conférence sur Henri Lagrange.
Tiens, voilà bien
à la salle des agriculteurs.
Ah oui, pour l'INF. Pour l'INF.
Institut National de Formation.
Tu l'as vu, toi, Serge?
Non, moi je ne regarde pas ça parce que ma santé est fragile. Et mon téléviseur aussi, ouais. D'ailleurs. Alors donc, j'ai décidé de ne pas regarder, mais maintenant, comme tout le monde en a parlé aujourd'hui, et que j'ai exactement deux opinions, par exemple, Nicolas Bonnal m'a dit que c'était une émission passionnante, et les nationalistes ont été très brillants et très forts, d'autres m'ont dit que c'était une émission absolument nulle, alors je voudrais...
Je crois que les deux positions sont bonnes. Tout dépend où l'on se place et où l'on se veut être. Cette émission était nulle par le sujet qui était abordé.
Alors il faut rappeler, il faut indiquer à nos auditeurs qui ne l'auraient pas regardé, qui n'en auraient pas eu connaissance, que c'est l'émission mardi soir de Monsieur Bilalian. Ouais. Alors, Monsieur Bilalian a tout simplement pris l'idée des dossiers de l'écran qui consiste à diffuser un film et ensuite à faire un débat sur un sujet inspiré par le film. On a supprimé l'émission des dossiers de l'écran que faisait Monsieur Armand Jameau parce qu'on lui a expliqué qu'elle était trop vieille. Donc on a viré Armand Jameau et on a créé Mardi Soir, qui est exactement la même chose.
Pire.
Et pire, certainement. Et dont s'occupe Monsieur Bilalian, qui est tout l'intérêt de l'opération. Alors, donc hier soir, le sujet c'était la relève au Front National, dans les mouvements nationalistes en tout cas. Et c'était introduit, si j'ose dire, par le film
La Combe Lucien,
qui est lui-même une crapulerie, puisque quand l'auteur, c'est Truffaut, non c'est Malle,
Louis Malle,
quand il met Malle, Truffaut, tout ça, on finit par se prendre les pieds dans la pellicule. Donc Louis Malle, quand il a eu l'idée de faire ce film, c'est François Brignot qui me racontait ça, a fait le tour des Français de plus de 100 ans, qui avait connu cette époque-là et qui avait eu une activité à cette époque, en leur disant, voilà, je voudrais raconter dans un film le processus par lequel un jeune Français est arrivé à entrer dans la milice. Alors il a donc rencontré Malle, d'anciens miliciens qui lui expliquaient comment ils étaient d'abord entrés dans le service d'ordre et puis pour quelles raisons ils avaient fait le choix de la milice, etc. Et puis finalement, Louis Malle a tourné un film qui raconte l'histoire d'un jeune débile qui se retrouve dans la, entre guillemets, Gestapo française, parce que ça n'a jamais existé, qui était en réalité, on pourrait dire, un auxiliaire, un supplétif du Sicherheitsdienst, du SD. Alors, donc, à partir d'un film qui raconte la vie d'un débile, parce que c'est très important dans l'histoire, le fait qu'il soit débile, d'un débile embarqué, non pas dans l'aventure de la collaboration, mais dans l'aventure de la trahison, ce qui est tout à fait différent, puisqu'il s'agit là de rentrer dans un service de police d'un pays, d'une nation occupante. À partir de cette histoire-là, on introduit un débat
sur le thème « Comment peut-on être jeune et adhérer au Front National en 1991 ?» C'est un peu comme si je décidais aujourd'hui que pour... on va organiser une grande conférence sur la question « Être juif en France en 1991 » et on va vous présenter, pour illustrer ce débat, « Le juif sus » de Vahid Arlan, qui est vraiment le film que c'est exactement, ça correspond exactement au sujet. Hein. On peut vraiment comparer les deux attitudes. Alors, à partir de ça... Je te rends la parole, Christian, que tu as participé à ce débat, il y a également Olin.
Enfin, j'ai participé, c'est beaucoup dire.
Oui, tu étais présent.
Le point de vue de Sirius.
J'ai été présent, j'étais un peu en retrait, ce qui m'a donné la distance. Je dois dire que tout d'abord, dans ce système qu'exprime la télévision, il y a à chaque fois un postulat qui est faux. C'est-à-dire qu'on montre un film... On sait très très bien qu'il est là que pour le prétexte, et on donne un ton de débat qui est la relève, les jeunes, quelle est cette relève. Et moi, on m'avait fait venir en me disant, vous allez donner votre avis pour savoir s'il y a des liens et des correspondances entre cette jeunesse que l'on traite de néo-nazis avec vous qui avez fait... qui avait été dans un engagement national et socialiste. J'ai pas dit nazi, pardonne-moi.
Comme on a tous nos talents, on peut dire les mots en entier.
Nazi, bon, comme dit madame.
Donc déjà, au départ, le postulat est faux. Alors on fait venir une catégorie de gens. D'ailleurs, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que les gens qui ont été contactés pour venir ne sont pas venus. Je vais citer des noms. C'est très intéressant. Monsieur Devedjian était invité. Il avait dit oui. Il n'est pas venu parce que je crois que son passé d'extrémiste dit de droite...
Du passé faisant table rase.
Ouais, non, mais là c'était très important. Il avait donc peur que certains lui rappellent des propos qu'il tenait après boire, après des dîners entre copains, etc.
Il ne buvait pas.
À l'époque de Michel...
J'ai bien connu Devedjian, il ne buvait pas.
Oui, il ne buvait pas.
C'est ce qui faisait la dangerosité du
pays. Oui, mais lui ne buvait pas, mais ça n'empêchait pas de dire des bêtises en fin de repas. En 70, il y avait donc pas mal de témoins pour ça. Il y en a beaucoup d'autres.
C'est-à-dire que maintenant, il lève les deux bras. Avant,
oui.
Il n'en levait qu'un seul.
Oui, il n'en levait qu'un seul. Et donc, il s'est dit, je vais sûrement rencontrer des gens qui vont avoir le mauvais goût de me dire, mais enfin, qui étiez-vous, monsieur Devedjian? J'ai remarqué que d'ailleurs, que cette droite que l'on considère comme une droite de brut, de beauf, de etc., n'a pas mis en difficulté Brillant, qui pouvait dire que le Front National faisait 0,7% à une époque, et personne ne lui a demandé pourquoi il s'était fait élire député avec le Front National. Bon, tout ça, je m'aperçois que les gens sont beaucoup plus gentils qu'on ne le dit. Mais comme le sujet était faussé au départ, qu'il y avait deux personnes qui étaient là, surtout deux personnes, je ne parle pas de Le Guen, qui est vraiment, je pense, l'adversaire rêvé dans une bataille sur le maintien d'une identité nationale, de prouver que la France est un pays qui existe, etc. Monsieur Le Guen devrait être détaché du front du Parti Socialiste pour être opposé aux gens du front, même les plus...
Tu comprends, un type qui s'appelle Jean-Marie Le Guen.
Ouais.
Oui. D'ailleurs, ça doit l'agacer parce que très souvent, on doit lui dire Jean-Marie Le Pen, il y a des accidents de...
C'est dur quand même.
Ouais, c'est très dur.
Chacun sa croix.
Et il y avait un historien dont tout le monde avait oublié qu'il avait commis en 1980 un livre sur l'extrême droite, et qui est le livre le plus nourri de fausses indications, de fausses enquêtes, etc. Moi, je n'en sais rien, je ne connais pas très bien l'extrême droite. Mais je sais que les gens qui sont spécialistes de l'extrême droite m'ont dit, c'est l'archétype du livre complètement nul, où les enquêtes sont très 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 mauvaises. Puis il y avait un autre monsieur, je me suis demandé pourquoi il était là, c'était le nouvel avocat de la LICRA, très en vue, très en avant. Je dis ça parce que je sais qu'ils enregistrent cette émission, et comme il était à côté de moi, Je voyais tous les papiers qu'il manipulait. Je lui ai demandé d'ailleurs des nouvelles de celui qui plaidait pour la LICRA et qu'il est en train de mettre à l'écart pour prendre sa place et devenir président de la LICRA. Il a été très, très évasif. Il m'a dit, mais comment vous connaissez, vous venez à nos procès? J'ai dit oui, par curiosité, je dois vous préciser, jamais comme accusé jusqu'à nouvel ordre. Et pas encore comme témoin, mais je viens et donc je connais bien votre personnel de tribunal. Et tous ces gens qui sont arrivés sont donc arrivés pour tenter et essayer de faire le lien entre dit des extrémistes de droite néo-nazis, le fascisme étant à côté vraiment une petite histoire de communion, qu'on pouvait en parler lors d'une communion solennelle. Et donc l'opération idéale a commencé. C'est-à-dire, on a, bon, pour ceux qui l'ont vu le savent, pour ceux qui l'ont pas vu, on a commencé à passer des films, dont certains films qui ont été traités dans la presse comme étant des manipulations, etc., des films sur les skins dans mm-hmm. Dans le Nord. J'ai été très étonné et très agréablement surpris, car il y avait en effet un représentant des skins.
Oh, il était sublime.
Eh bien, je dois dire, vous avez raison.
Ah, c'est Monsieur Baskin.
Monsieur Baskin.
Il était fantastique.
Que moi, j'aime pas beaucoup ces masses énormes faites de muscles.
Et au début, ils l'ont photographié. Il était assis, les jambes
un peu écartées. Ça, c'est une technique. Ça, c'est une technique qui est habituelle. Ils ont fait ça avec Le Pen sur la scène. Maintenant, toutes les personnes qui sont des ennemis, on les filme d'en bas. Ils ont l'air d'être à une tribune. Je dois dire que j'ai été très étonné. Ces jeunes ont dit des choses très simples. Ils ne sont pas du Front National. Ça n'avait aucune importance. Mais ils ont répondu d'une façon très nette et très claire. D'un seul coup, le racisme paraissait tout bête. Enfin, ces mots, ces grandes théories, c'était tout bête. Et le mot de nazi était renvoyé dans les poubelles de l'histoire avec une facilité incroyable. Ils se sont trouvés désemparés. Et ce qui m'a semblé le plus extraordinaire, c'est que ces gens, qui sont pour la plupart des faussaires de l'histoire, sont des gens que l'on peut affronter, que quand on veut, je ne comprends pas que la majorité d'entre nous hésitions, malgré toutes les manipulations qui puissent être faites, de les affronter face à face, très calmement, en riant.
Je vais répondre à ta question. Enfin, tu dis, je ne comprends pas. Ma position hier et avant, je vais appeler des dirigeants du Front pour leur dire, il est absolument scandaleux que cette émission soit diffusée dans son état, dans l'état où elle est prévue, et il serait scandaleux que quiconque du Front National y participât. Parce que j'ai l'habitude de dire que quand on t'invite à un dîner et que tu dis qu'est-ce qu'il y aura au menu, on dit c'est vous, tu vas pas au dîner. Hein. Si on te dit venez, on va faire un concours de tir à la cible et vous jouerez le jeu de la cible, le rôle de la cible, tu ne vas pas au concours. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout compris la présence de Roger Hollande. Je trouve, alors la présence des autres, c'est différent. Il représente en rien le Front National. Tu n'es pas membre du Front National, donc tu n'étais pas là pour ça. Batskin n'est pas au Front National.
On m'avait appelé moi pour dire s'il y avait des liens, etc. On m'a interrogé après une heure, une heure et demie.
C'était 5 minutes avant la fin.
Oui, d'ailleurs, c'était tout à fait irréel, etc. Mais je vais te dire une chose, Serge. Quand on est observateur à l'intérieur d'un système et que l'on voit comment ça se passe et ce qu'a donné cette émission, pour ceux qui ont eu le courage de rester dans ce melting pot des idées, des slogans, de tout ce que tu veux, il est incontestable que les gens qui font ces émissions pour démolir ce que nous représentons les uns et les autres avec nos différences font à chaque fois un échec considérable. Et c'est tellement vrai qu'à la fin de cette émission, les uns et les autres se disaient « Oui, on a encore, malgré beaucoup de maladresse de l'autre côté, on a encore donner des voix au Front National. Et c'est logique. Ça, c'est je veux dire que, comme ils ne sont pas habités par l'idée qu'ils représentent, comme ils savent très bien qu'elle n'est pas vraie, qu'elle n'est pas juste, qu'elle ne représente pas ce qui est l'avenir de la France, comme ils défendent simplement une idée de boutique, ils sont mauvais. Ils n'arrivent pas à défendre ce qu'ils veulent défendre.
C'est une affaire entendue. Cela dit, la présence de Roger Hollande, membre du bureau politique du Front National, personnalité importante du Front, cautionnait d'une certaine manière le débat lui-même. Ça veut dire, Hollande disait, j'accepte de discuter avec vous de la question de savoir si un jeune, en adhérant au Front National en 1991, accomplit une démarche comparable à celle d'un garçon de son âge s'engageant dans la Gestapo ou dans l'ESD 50 ans plus tard. Le seul fait de poser cette question, c'est honteux, dit l'alliant.
Mais il a même pas posé cette question.
Non, Serge, c'était la question du débat.
Serge, je vais te dire, le film est un prétexte. D'ailleurs, tout le monde n'a pas fait référence au film, parce que c'est une vieille habitude des dossiers de l'écran. Donc il ne faut pas dire que les réserves ont été faites par certains qui ont eu le droit à la parole. En ce qui concerne le film, on sait très très bien que ce n'est qu'un prétexte. Et les téléspectateurs ne les prenaient pas plus bêtes qu'ils ne sont, heureusement pour nous. Ils savent très 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 bien que cela, ce n'est qu'un prétexte. C'est la suite qui compte. Et la suite, mon Dieu, c'était ça qui était le plus intéressant. La 2 a passé un premier film sur les skins dans le nord de la France, qui est un film qui a été critiqué par la presse entière, parce que ça avait été manipulé, on leur avait donné, on a appris 48 heures après ou 3 jours après, qu'on leur avait offert des caisses de bière, etc. C'est pour ça que Gatskin a pu...
Les réalisateurs du film, voilà, c'est-à-dire les journalistes avec des guillemets qui avaient réalisé ce film, avaient payé des figurants, réalité, pour jouer les casseurs en leur offrant des bouteilles de bière.
Pas des figurants, c'était des vrais ou des pseudo skins. Moi, je connais pas, je suis pas un spécialiste de ce qu'est un vrai ou un faux skin. Ils ont
ils jouaient la comédie, ça.
Ils jouaient très très bien. Ils avaient bu. D'ailleurs, Batskin a très 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 bien répondu. Il a dit, qu'est-ce que ça vous inspire? Il a dit, moi, ça me fait rire. L'humour, tout ça me fait rire. Ça a été très net. Et là où je reviens, où je dis que Nicolas Bonnat a raison, c'est que le débat ayant été faussé, c'était de savoir si ces jeunes se référaient à ce qu'on montrait et l'exprimaient, et ils se devaient, c'était ce qui était entendu avant, avant débat, M. Bilalian devait m'interroger pour savoir si je trouvais des liens très très subtil, très fin, peut-être souterrain, entre ce qu'a été le national et le socialisme, parce que, bien entendu, je dois, moi, préciser, qui suis un ancien Waffen-SS, que national et socialisme se réfugie uniquement qu'à Auschwitz, et avec le postulat d'Auschwitz. C'est-à-dire que, comment est-il arrivé au pouvoir, les réalités économiques, sociales, qui ont pu être faites, tout ça s'est gommé d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on fait des raccourcis. D'ailleurs, je me suis permis, quand on m'a donné la parole, parce que tout le monde admirait, on admirait cette espèce d'unité d'esprit entre Barotra et Monsieur Noah, j'ai rappelé qu'on avait passé, que c'était Antenne 2 qui avait passé ce film, parce que je l'ai vu, sur la vie de Barotra. Alors on parlait de sa jeunesse, de sa réussite à Polytechnique et dans le tennis, et puis d'un seul coup, on fonçait très très vite et on arrivait. La Gestapo l'a arrêté, il a été déporté. Et on a simplement oublié de dire une chose, c'est qu'il avait été ministre des Maréchal, qu'il était, quand il est revenu de déportation, il a été poursuivi par la police existentialiste et résistentialiste, et qu'il... il est président de l'association du souvenir des maréchal Pétain. Mais donc ils agissent toujours comme ça. M. Bilalian a pris un air scandalisé.
Comment il va nous parler du maréchal? Eux, ils n'arrêtent pas de parler du nazisme, mais vous parlez du maréchal, vraiment là.
Alors le problème a été très 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 simple et très net. Tout était là. Alors il est évident que je pense qu'il n'y avait pas à perdre son calme ni rien, Monsieur Le Guen. Jean-Marie Le Guen n'a que n'a qu'une tonalité très lointaine avec Jean-Marie Le Pen. Il n'en a pas ni le talent, d'analyse et ni le talent de s'exprimer avec autant de qualité. Les autres qui étaient là étaient de mauvaise qualité. Ils le savaient très bien qu'ils défendaient quelque chose qui était indéfendable au fond d'eux-mêmes. Et de toute façon, Benalla a raison. Pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout, ça a été la démonstration parfaite de ce que c'est que le montage bête, stupide, même pas vraiment méchant.
Et mené par quelqu'un qui s'est pas
du tout. Et mené par quelqu'un qui est complètement pauvre, Bilal Lyon.
Il
est arménien et ça donne beaucoup de réflexion, le pauvre, parce que les Arméniens en général ont plus de jugeotes, ceux que je connais ont plus de jugeotes d'intelligence et d'analyse.
Oui, mais enfin tous les peuples ont leurs problèmes.
Non, mais lui c'est pas le peuple.
En tout cas, l'idée même en soi était absolument répugnante. Je trouve que d'avoir simplement caressé cette idée d'organiser, enfin de dresser ce parallèle est quelque chose d'abject qui déconsidère totalement non seulement ce personnage, mais surtout ses chefs, c'est-à-dire Monsieur Mohamed Bourges, qui est le directeur d'Antenne 2.
Mais Serge, tu le sais bien, puisque tu l'écris.
C'est de la crapulerie médiatique.
Tu l'écris régulièrement chaque semaine dans ton journal. Ces gens poursuivent un but bien défini. Le problème est de faire monter à chaque fois la mayonnaise. Ils vont de plus en plus haut. Ils vont de plus en plus fort. Ils font de plus en plus fort. Ils le pensent. Et à chaque fois, les téléspectateurs ne marchent pas. C'est ridicule.
Alors, je tiens à dire que j'arrive pas à lire ce que vous avez écrit, Philippe. Il m'envoie un petit mot, le père Varlet, qui n'est pas lisible. Alors, il faut pas s'étonner si on ne le lit pas. je tiens à dire que j'avais demandé à Roger de venir parler ce soir de cette émission et qu'il m'a dit qu'il pouvait pas pour une raison que je tiens à faire connaître aux populations, parce que c'est ça, j'étais quand même un peu surpris. Il m'a dit qu'il avait invité sa maman au restaurant. Donc même Roger Olivre a une maman. C'est quand même faudrait dire ça à Bilal Lyon. Vous vous rendez compte? Même les gens comme ça ont des moments. C'est quand même incroyable.
Il est humain.
Oui, il est humain. Il n'est pas sorti d'un œuf.
C'est étonnant.
Non, mais on pourrait croire.
Moi, je voudrais bien voir une maman.
Eh ben, moi aussi. Alors, Roger, il a la chance de l'avoir. Donc, il l'invite au restaurant. Il a bien raison, plutôt que de venir bavasser avec nous. Bon, merci en tout cas, Christian, de nous avoir expliqué, vu de l'intérieur, ce qui s'est passé hier. Moi, je ne l'ai pas vu sur l'écran. Serge, tu as regardé l'émission?
Absolument, oui. J'ai tenu à assister à cette tentative de mise à mort qui s'est retournée contre ceux qui l'avaient déclenchée. Oui, j'étais inquiet, parce qu'effectivement, c'était pour les invités qui devaient défendre notre cause, c'était aller à l'abattoir. Et ça s'est déroulé admirablement. Mais je crois que nos adversaires ont cette bêtise dont vous parliez tout à l'heure, qui est d'exagérer trop et finalement de lutter. C'est ce qui m'a surpris et choqué, mais enfin c'est habituel, mais je crois que c'est ce qui doit finalement inverser l'image. Ils ont, par l'insulte, par l'excès, par l'intolérance, combattu ceux qu'ils rejettent habituellement sous prétexte de lutter eux-mêmes contre l'excès, l'intolérance, etc. et l'anathème. Leur argumentation, Monsieur Le Guen dont vous parliez, mais les autres également, c'était la mauvaise foi. En fait, le débat, c'était vous êtes des extrémistes, vous êtes des nazis, vous êtes des antisémites, vous êtes des racistes, etc. Mais quelle argumentation? Rien. L'insulte? Rien. Rien.
C'était alors, prouver le contraire maintenant.
Oui, mais bon, qu'il soit pour, on l'a bien vu, cette personne de la Ligue des droits de l'homme.
La personne des droits de l'homme, il faut quand même préciser, c'est Madeleine Reberiou, qui est une historienne stalinienne, stalinienne, ça c'est, on peut le dire clairement, qui a écrit des choses absolument crapuleuses sur le plan historique, et je suis prêt à en faire de la démonstration devant n'importe quel tribunal, qui est un personnage puant, mais absolument puant d'arrogance. Et je trouve que quand on a apporté son soutien pendant des années, un soutien militant, inconditionnel, au système politique le plus affreux de toute l'histoire du monde, il faut quand même un sacré culot pour venir se présenter sous la bannière des droits de l'homme dans une émission de télévision. Je veux dire, Madeleine Reberiou, qui défend les droits de l'homme à la télévision, c'est absolument incroyable. C'est Grosminet qui se ferait le président de l'association des défenseurs de Titi. Hein.
c'est quelque chose, et j'ai choisi volontairement une métaphore légère, hein. mais c'est quelque chose d'incroyable. Mais il n'y a qu'à la télévision française qu'on peut voir ça sans que quiconque se lève pour dire « Vieille imposteuse, est-ce que tu vas retourner dans ton tombeau stalinien et arrêter d'emmerder le monde avec tes mensonges ?» Eh ben non, personne ne dit rien, tout le monde a l'air de trouver ça très bien.
Sauf
le jeune...
Eh bien, je vais te dire une chose, Serge, tu lui donnes beaucoup d'importance. Moi aussi, j'ai cru que c'était un monument marxiste, léniniste, etc. Hier, je l'ai vu dans l'exercice public de son expression. Et j'ai eu à un certain moment, comme j'étais un peu en arrière, j'ai eu un peu pitié d'elle, parce que moi, j'ai connu...
T'as vraiment de la pitié d'Orès, quoi.
Oui, non, mais je me suis dit, si on nous fournit que ce genre d'adversaire, alors, mon Dieu, la grande route nous est ouverte. Ce qui nous en donne tous les jours, comme cela.
Moi, ceci étant, je tiens à dire, je ne l'apprends pas du tout, mais qu'elle au moins essayait d'exprimer un semblant d'idéologie. Par conséquent, par rapport aux autres qui n'avaient que l'anathème à la bouche, elle disait, bon, pourquoi elle se battait. Alors, on est pour, on est contre, mais c'était clair. Elle était pour le mondialisme, elle était pour ces utopies de tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est égal, etc. Elle l'exprimait. Bon, bien entendu, elle a été prise en défaut quand elle disait que, évidemment, bon, quand on est pour les droits de l'homme, on ne peut pas interdire toute la littérature et les livres, et donc il fallait tolérer une liberté de tolérance
avec la... C'est pour ça que je dis, elle a été coincée.
Elle a dit que Mein Kampf, bon, d'accord, à condition qu'il y ait une...
C'est pas conséquent,
il a posé la question, oui, mais les œuvres de Karl Marx, et de tous ces...
C'était pour
le droit de l'individu, alors là, non, pas de problème, c'est pas notre programme, donc elle a été démasquée, mais en fait, elle avait un discours qui était plus raisonnable, même si tout à fait...
C'est une adversaire facile, il faut, je pense, dans tous les
débats... Non, je crois que les autres étaient plus faciles, parce que les autres n'avaient pas d'argument.
Oui, mais les autres sont bêtes, et comme ils sont bêtes, même quand on dit des choses intelligentes devant eux, ça prend pas la même valeur que devant Madame Reverio.
Donc tu réclames l'opposition de Reverio.
Pas de tout cela. Si le débat avait été maîtrisé par Bilaillon, qui a été complètement débordé, qui ne savait pas conduire son émission, je crois que les choses auraient pu être beaucoup plus intéressantes. Et finalement, j'étais satisfait. Je craignais, je le dis tout à l'heure, la mise à mort. Et ma foi, bon, je...
Mais à la fin de ce débat, ça a été très intéressant. D'abord, la majorité des gens ne sont pas allés serrer la main à Bilaillon. Ils l'ont senti vaincu, ils l'ont senti... Parce qu'il y a aussi ce que Minute, j'ai lu ça aujourd'hui dans Minute, vous étiez en avance, vous avez mis ça en deux lignes, qu'il y avait des problèmes chez Bilaillon avec ses coups. Nous sommes aperçus hier, on en a vu les effets. D'ailleurs, Bilaillon a fait une espèce de confession à la fin en disant « On me l'avait dit, c'était très difficile, j'ai pas réussi, j'ai essayé, etc. »
Oui, si
c'était pathétique, d'ailleurs, c'est pathétique. Dès le moment où on s'intéresse aux millions de centimes que ces gens peuvent gagner, c'était pathétique de penser qu'ils pouvaient les perdre. Mais autrement, c'était assez intéressant. Et j'ai assisté à une chose quand même tout à fait particulière. C'est que ce monde complice dans un combat sans nuance, un combat qui souvent atteint les limites de l'abject, ces gens n'ont même pas la solidarité du malheur. Ils ne sont pas allés serrer la main de Bilaillon en lui disant oh, « Bon, c'est pas réussi, c'est à cause de ces sales extrémistes qui disent n'importe quoi, on peut pas s'exprimer, ou ils gueulent trop fort. » Rien, ils sont partis.
Ah, mais c'est normal, je crois.
Moi, je suis allé.
Ils sont venus à la curée et se sont rendus compte que finalement, ils étaient aussi gibiers.
Moi,
j'ai
été dire au revoir, monsieur Bilaillon. J'étais en fait compte, j'étais ravi de la fin et de comment ça s'était terminé. Et après une vive analyse, je me suis dit, bon, j'ai été le voir parce que, bon, quelqu'un qui a perdu une bataille, il était complice, c'était une meneur de jeu. Il a cru qu'il montait quelque chose contre le Front National, ça s'est retourné contre lui, et c'était pitoyable. J'ai dû serrer la main, j'ai dû lui dire au revoir, mon papa m'a appris.
Une vieille famille de chevaliers, les Lamazières. Voilà. Merci Christian, en tout cas, de nous avoir
un petit syndicat des apprentis sorciers ayant eu un accident. Ça me fait penser à
Guillaume Durand.
Guillaume Durand, un dessin que j'ai vu dans une revue que je ne conseille pas, surtout pas au lecteur, puisque c'est Penthouse ou quelque chose comme ça.
Ah bah ouais,
est formidable. C'est un dessin qui, bon, c'est difficile, c'est pas radiophonique, mais qui représente une façade d'immeuble contre laquelle on voit une sorcière qui s'est écrasée parce qu'elle était éclaboussée de sang et le balai esquinté, et sur le dos il y a écrit apprenti sorcière. Elle s'est écrasée, qu'elle a raté son virage. Mais c'est un petit peu ça, je crois.
Ce qui était formidable, d'ailleurs, s'il faut bien le dire, c'est que tous ces gens qui étaient de mon côté, bah, d'abord parce que il faut que je vous donne quand même une autre petite indication qui est très drôle. Briand était invité, il était à côté de moi, il faisait partie des deuxièmes couteaux. Ah là là, il était dans un état immédiatement, il s'est posé un problème déjà. Il a mis au carré, il a menacé de partir. Il voulait être à la table d'hôte. Et parce que dans cette émission, il y a les hôtes et puis il y a les invités sans assiette. Non, je faisais partie, c'était les gars.
Il a remplacé qui?
Oui, il faut... Et alors, il a remplacé plein de gens qui étaient absents. Il a fait une scène, il a dit « je pars », etc. Et il est venu. Et j'ai trouvé que les gens qui lui étaient opposés ont été très, très gentils. Parce que tout ce qu'il a dit sur le Front National, etc., quand on pense qu'il était député du Front National, qu'il a siégé à la Chambre avec eux, qu'il est parti après avoir... quitté Giscard d'Estaing, il a quitté Le Pen, etc. J'ai trouvé que c'était formidable. Personne ne lui a rien dit. De toute façon, il n'aime que la lambada, on le sait depuis hier. Et Noah est pour lui l'archétype de la réussite. Donc,
je réserve pas un petit. C'est tout ce que je
veux dire. Moi non plus.
On va, voilà, on a parlé, alors beaucoup d'avis d'auditeurs qui sont partagés, des éditeurs qui disent, l'émission a été utile, elle a montré que les jeunes pouvaient ne pas être de gauche, oui effectivement, il y en a qui dit, Roger n'a pas été bon pour une fois, quelqu'un qui dit au contraire, Roger était très bon contrairement à ce que vous dites.
On n'a rien dit, nous.
Il y a un autre qui dit, Bill Aillon était très très vilain, voilà. Il lui coupait la parole tout le temps.
Donc oui, les avis sont tout à fait partagés sur cette émission.
Ouais. Mais un auditeur qui dit que la FM n'aurait peut-être pas dû y aller.
Oui,
tu disais ça tout à l'heure et on en a discuté. Mais je crois que non, il fallait y être.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, le résultat de l'émission a prouvé qu'on a bien fait d'y être. Bon, ceci étant, Roger a fait ce qu'il a pu. C'était très difficile, comme pour tous d'ailleurs. Hein. Il n'avait pas la parole et grâce à sa forte voix, il a pu se faire entendre quelques fois. Mais ne pas y être aurait été... fatal, parce que tous se seraient ligués en quelque sorte contre l'absent qui aurait endossé tous les péchés.
La seule chose vraie de l'émission de Durand, c'est que les absents ont toujours tort.
Oui, je crois.
Alors on va écouter plutôt un deuxième extrait du conte de Noël du père Labaki. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un conte de Noël qui est vendu sous la forme d'une cassette enregistrée par Jean Pia, accompagné d'un recueil d'aquarelles dessinées et écrites. Oui, écrit. Le recueil est écrit, les aquarelles sont dessinées et EES par le père Labaki. Ça vaut 95 francs, c'est aux éditions Lotédal, 38 rue des Épinettes, 75 017 Paris, et c'est au profit des enfants victimes de guerre au Liban. On écoute donc un deuxième petit extrait de cette cassette.
Milad aimait tout ce qui bouge, d'un amour curieux à outrance, le vent, les gens, les bêtes, les arbres dégoulinant de soleil ou de pluie, les feux de branchage dans les vieux poils ventrus. Il parlait sans arrêt aux choses comme aux êtres, posant mille questions auxquelles il était souvent impossible de répondre, palpant tout ce qu'il pouvait palper, humant tout ce qu'il pouvait humer, s'aventurant aussi loin qu'il le pouvait, autour de sa petite maison, situé pour son bonheur à l'orée des bois. Milad avait tout pour être heureux. Des parents tendres et bons comme les galettes des jours de fête. Une maison pauvre mais plus douillette qu'un burnous de petit prince. Du lait et du miel à tous ses goûters et, croyait-il, de l'espace à explorer jusqu'à la fin des temps.
Voilà, c'était donc un deuxième extrait du conte du père Mansour Labaki, du conte de Noël du père Mansour Labaki. Je vous rappelle que ce livre cassette peut être commandé aux éditions Lotédal. J'insiste parce que Noël est dans 3 semaines, c'est vraiment le moment ou jamais de commander ce livre cassette. Aux éditions Lotédal, 38 rue des Épinettes, 75 017 Paris, il faut ajouter naturellement 15 francs de port. De porc, pas de cochon, 15 francs de poste. Ne me regardez pas comme ça.
Mais non, mais moi je voulais vous rappeler que la journée livre d'Assas, il y aura une signature le mercredi 11 décembre de 15h à 20h, avec entre autres, mais quels autres le père Labaki, bien sûr, Serge de Bécache, Alain Sanders.
Et le père Labaki, donc ça sera le moment ou jamais d'acheter.
D'acheter,
vous pouvez le commander par correspondance. Alors on me signale également que le lundi 9 décembre 91 à 8h, sur l'esplanade du château de Vincennes, partira un car, je crois, pour Maestricht afin de défendre la cause des Croates. On peut se renseigner et s'inscrire au 43 72 03 19. Vous pouvez téléphoner dès maintenant et jusqu'à 20h. Et vous pourrez téléphoner demain jeudi, c'est pas le 5 demain, si, c'est le 5.
Si, c'est le 5.
Demain jeudi 5 décembre. Entre 16h et 20h, au même numéro, 43 72 03 19, si vous voulez aller manifester à Maestricht. À Maastricht.
Oui, parce que maintenant, ça s'écrit avec deux.
Qu'est-ce que c'est que Maastricht? C'est compliqué, je ne sais trop rien, c'est un truc européen en tout cas. Voilà, donc c'est mauvais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question à se poser. Tout ce qui est européen est mauvais, forcément. N'est-ce pas, mon cher?
On en parlera la semaine prochaine.
Ah, je suis peut-être plus nuancé, mais.
Oui,
je dis bien non.
J'arriverai quand même dire deux mots à nos auditeurs de ce qu'est Maestricht. Je crois que c'est quelque chose qui va permettre d'aller plus loin dans la future Europe que ces gens-là sont en train de nous concocter et qui, notamment, va avoir pour effet de préparer une monnaie commune. Alors, une monnaie commune, ça peut paraître très sympathique parce que ça permettra à tout un chacun de voyager et de dépenser son argent partout sans avoir de problème de change, mais ça a des inconvénients. C'est que ça a automatiquement pour effet de priver un pays de sa liberté de décision économique. Et comme l'économie régit tout, s'il y a une seule monnaie, eh bien, quand on décidera telle ou telle politique financière, économique, etc., nous serons tenus par l'Europe et nous ne pourrons pas être souverains à ce niveau-là. Donc c'est grave car ça ira partout. Taxes, impôts, mais politique industrielle, politique sociale, politique militaire, etc. C'est le premier point. Aussi, ça va vers une Europe beaucoup plus unie au niveau de la diplomatie et donc là aussi l'impossibilité de prendre position indépendamment et librement en fonction de nos intérêts ou de nos vues, parce que l'Europe chapeautera tout ça. Donc c'est des pertes de souveraineté très graves et qui peuvent aller très loin à terme.
Un pays quand même à
l'Angleterre, comme d'habitude.
D'habitude.
Que l'on critique et qui pourtant devrait être pris en exemple.
Dans beaucoup de domaines.
Oui, alors, il y a aussi la question du vote des étrangers, me fait-on remarquer, qui va être de nouveau posé à Maastricht.
Oui, mais attention, là, on tombe...
Pour les élections locales.
Ce qui vient d'être expliqué à l'instant, c'est que Strasbourg propose, dans le domaine économique, Bruxelles décide, et maintenant on ne sait plus s'il va y avoir encore un échelon supérieur. Alors, tant que ça relève des propositions de Strasbourg, on a peut-être des chances que Mamadou, qui nous déteste, n'ait pas la même voix que nous, quoi.
Bon, ça, c'est
jusqu'à nouvel ordre.
Ça n'est pas certain. Ça paraît assez mal engagé. Commandant Muel, vous êtes, j'ai dit, l'auteur de deux livres récents. Le premier raconte l'épopée de la première armée.
Oui, c'est un album.
C'est un album avec très très richement illustré.
Beaucoup de photos, oui.
Et le deuxième livre, qui est d'ailleurs paru, je crois, avant.
Oui.
S'intitule Le bataillon des réprouvés et il est paru aux éditions.
Auprès de la Cité, aux collections Troupes de choc, après certains avatars.
Oui, on en parlera de ça. Alors, je vous ai prié de venir ce soir, je vous remercie d'avoir accepté parce que je trouvais qu'il était intéressant de mettre côte à côte. Le biographe du bataillon des réprouvés, vous allez nous expliquer tout de suite de quoi il s'agit, et l'autobiographe de l'aventure d'un jeune Français engagé dans la Waffen-SS, dans des conditions que Christian de la Mazière nous rappellera tout à l'heure, des conditions assez exceptionnelles pour être racontées. Mais je pense que d'abord, il faudrait que vous nous expliquiez ce qu'est le bataillon des réprouvés.
Le bataillon des réprouvés, c'est un titre qu'on a donné au livre, c'est en fait la constitution du bataillon d'infanterie légère d'outre-mer, qui a été bâti à partir de gens qui étaient en prison après les condamnations de 1945 pour divers faits de collaboration ou autres, et que l'armée française, ayant besoin de chars à canon en Indochine, avait décidé d'envoyer sur le terrain. En fait, au départ, il y avait 3000 partisans. 3000 volontaires, et le général Revers, qui était à l'origine de l'idée, voulait en faire une demi-brigade. Il n'en est parti que moins de 400, après beaucoup de difficultés, parce que le Parti communiste à l'époque était extrêmement puissant, et je suppose qu'il n'avait pas envie de voir ses petits camarades aux prises avec ces gens-là. Et aussi parce que l'administration pénitentiaire, parce que la justice, qui était passablement gangrenée par ce parti communiste, ont mis un maximum de freins, ont mis des bâtons dans les roues, et finalement, il n'en est parti que 350 à peu près, échelonnés dans le temps. On les a fait partir discrètement, en les embarquant en douce. Et ce bataillon n'a eu une vie effective que de 6 mois, petit bataillon. On a eu une vie effective que de 6 mois, on l'a vite transformé en ne voulant pas laisser les gens ensemble pour ne pas marquer, pour ne pas leur donner une chance de prouver ce qu'ils étaient capables de faire en unité. On en a fait 2 compagnies, puis ces 2 compagnies elles-mêmes ont éclaté et les gens ont été répartis dans différents postes de responsabilité, dans les bataillons de marche de l'extrême-orient sur les plateaux Moy, ou dans des postes de responsabilité à Niatran, où ils occupaient des responsabilités de chiffres, d'officiers de renseignement, des chefs de poste, parce qu'on s'était aperçu que ces gens-là avaient pour la plupart une certaine expérience du métier militaire.
Alors, au fond, on aurait pu imaginer de retrouver Christian de la Mazière dans le binôme. Ça n'aurait pas été impossible. Non, Christian ?
Non, absolument pas, parce que j'étais à Clairvaux lorsque les premières délégations sont venues demander aux condamnés de vouloir bien se porter volontaire. Non, nous avons été contre, pour des raisons que je pourrais expliquer tout à l'heure, mais je sais que beaucoup d'entre nous et d'autres qui n'avaient pas suivi le même chemin que nous, mais qui étaient en prison pour des raisons, disons, elles étaient uniques, puisque c'était couvert par ce grand mot de la collaboration, mais c'était plein de gens étaient emprisonnés, et là, à ce moment-là, l'armée française avait besoin de volontaires pour aller défendre les terres d'au-delà des mers. Est-ce que vient dire le chef de bataillon Muel, il a raison, c'est que il n'y avait pas tellement de volontaires. Le Parti communiste était très puissant. Il n'était pas partisan de la reconquête de l'Indochine qui, après l'occupation japonaise, s'était retournée contre nous. Et il fallait donc des gens qui étaient forgés à l'anticommunisme. Et on a essayé de... Ils ont tenté de prendre pas mal de gens chez nous. Moi, en 1948, quand les premiers officiers sont venus, je n'ai vu que des Arabes partir, parce que nous avions des Arabes qui avaient été mis en prison parce qu'on leur avait dit qu'ils pouvaient tout faire en Allemagne, que c'était normal. Donc ils avaient violé une nuit de Noël, et comme je raconte dans mon livre, le général de Gaulle, ne blaguant pas avec la religion, lorsque l'épiscopat allemand a protesté, a traduit ces gens qui étaient venus des territoires d'outre-mer, s'étaient battus en Italie, puis étaient entrés en Allemagne, on leur avait dit « c'est à toi, Ahmed ». Ils ont fait brûler, pris des femmes qui étaient là parce qu'il n'y avait pratiquement plus d'hommes. Et ils ont été condamnés sévèrement. On les a donc eus à Clairvaux, et comme les sociétés dans les prisons se reforment telles qu'elles sont à l'extérieur, ces pauvres combattants africains se sont, tout au moins du Maghreb, se sont retrouvés aux tinettes, à vider les tinettes, etc. Et il est évident que quand on leur a demandé, qu'on leur a dit « Ahmed, tu sais, la France c'est ta mère, on a besoin de toi », ils sont, les uns et les autres, ont préféré, au lieu de manier le balai dans un univers carcéral, prendre la tangente, eux, et partir. Il y a eu très peu d'Européens à ce moment-là. Là, j'ouvre une parenthèse parce que ces mêmes Maghrébins, Marocains, Algériens ou Tunisiens qui avaient été emprisonnés, pas Tunisiens, mais Algériens et Marocains, ça a fait par la suite de très bons FLN. Ils avaient compris ce que la France grande et généreuse pouvait faire d'eux. Ça, c'est exact. Mais à cette époque-là, nous, à Clairvaux, nous avons eu peu de gens, et en lisant le livre du commandant Muel, je me suis aperçu qu'en effet, c'est après 48 où il y a eu un peu plus de pression, ceux qui n'ont pas fait partie des premières séries de grâce et qui savaient qu'ils allaient rester encore, que j'avais 10 ans ou 15 ans. C'était une porte de sortie. Mais quand on lit le livre, le bataillon des réprouvés, on se dit qu'il allait mieux rester en prison, en fin de compte.
Oui, ça c'est pas possible. Alors, on va revenir sur ce livre, le bataillon des réprouvés, et sur le rêveur casqué, parce qu'il y a quand même une espèce de résonance de l'un sur l'autre. Mais avant, je voudrais, commandant Muel, parler un peu plus longuement de votre album sur la première armée. La première question, c'est celle de la raison de l'existence de ce livre, parce que c'est pas le premier livre qui est fait sur la première armée.
Parce que j'ai entendu un jour à la télévision Mourouzi parler de la résistance et de l'armée de Clair qui avait libéré la France. Ben, j'ai pensé que c'était un peu court dans son jugement, parce qu'il y avait aussi quelques Américains, bien sûr, mais il y avait aussi toute une armée qui a débarqué dans le Sud. Ce n'est pas parce que j'en ai fait partie que j'ai voulu porter témoignage, mais simplement pour qu'on sache qu'il y a une armée qui est venue d'Afrique du Nord, une armée dont on a beaucoup parlé à l'époque, parce qu'on a accusé cette armée d'être pétiniste, d'être le pur produit de...
Pardonnez-moi de vous couper, mais en fait vous répondez à une question que j'allais vous poser, et vous y répondez de façon inattendue. J'allais vous dire, je vais vous demander pourquoi la première armée a subi ce déficit de notoriété par rapport, par exemple, à la deuxième DB.
Mais ça fait partie de tout un programme de désinformation, parce que lorsque la première armée a été formée, si vous voulez, à partir de l'armée d'armistice d'Afrique du Nord. Dans cette armée d'armistice, il y avait énormément de Nord-Africains, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure. Il y avait aussi des jeunes engagés, dont j'étais, qui n'ayant pu passer en Angleterre, parce qu'à 18 ans, c'était pas très facile de trouver une filière pour aller en Angleterre, se sont engagés en Afrique du Nord avec une idée de revanche, une idée de libération de la France, et une idée qui était d'ailleurs celle de Weygand, qui avait donné des consignes extrêmement précises dans ce domaine, camouflage du matériel, augmentation des effectifs malgré les commissions d'armistice. Et ce sont ces gens-là qui, après le 8 novembre 1942, ont arrêté les Allemands en frontière de Tunisie, alors que les Américains avaient complètement abandonné le terrain. Moi, j'ai vu une cinquantaine de chars américains abandonnés par leur équipage pour courir plus vite. Et c'est cette armée qui était mal armée, qui était armée de fusils de pelle avec des mitrailleuses, tout le monde portait des bandes noltières. Il y avait un escadron de chars sommaires en tout et pour tout. C'est cette armée qui a arrêté l'armée allemande en Tunisie, qui a permis aux alliés de venir après en nombre pour régler l'affaire. C'est cette armée qui a libéré la Corse. Cette armée, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la Corse inclus, était sous la direction de Giraud. Or, vous n'êtes pas sans ignorer les querelles Giraud de Gaulle, et il fallait bien, puisqu'il y avait une querelle entre les chefs, qu'on soit d'un bord ou de l'autre. Pour cette armée Giraud, puisqu'on l'appelait comme ça, il n'y avait absolument aucune idée de politique, puisque je pense que tout le monde avait adopté le slogan du père Giraud, ce grand monsieur qui avait de grandes moustaches et des jambières de cuir, peut-être pas une cervelle de premier choix, mais enfin c'était quand même un beau soldat, et son slogan c'était un seul but, la victoire. Et je pense qu'on est parti de ce principe pour faire une armée qui, avec de l'âtre après, a atteint près de 500 000 hommes. 300 000 ont été engagés dans le débarquement.
D'où venaient ces hommes?
Ces hommes,
vous nous l'avez dit, l'armée de l'armistice,
oui.
Mais il y avait...
L'armée d'armistice a fourni les cadres, bien sûr, et les chantiers de jeunesse d'Afrique du Nord, qui ont fourni un régiment complet, le 7e chasseur d'Afrique, et de nombreux petits cadres. Ça provenait aussi des pieds noirs qui ont été mobilisés, mais dans une proportion extraordinaire, puisqu'on a mobilisé une vingtaine de classes de 19 ans à 45 ans, les pieds noirs étaient mobilisés, ils sont tous passés, les femmes étaient théoriquement mobilisés, la décision a été prise, on n'a pas eu à appliquer la décision puisqu'il y a eu assez de volontaires, de 10 à 12 000 femmes ont servi dans cette armée. Et cette armée, qui est devenue la première armée, comptait plus de 233 000 Nord-Africains, 170 000 Européens, armée d'armistice et pieds noirs d'Afrique du Nord, 20 000 évadés de France. Il faut savoir que sur 32 000 français qui sont passés, qui ont passé la frontière espagnole, une bonne dizaine de milliers ne sont pas apparus dans l'armée.
Ils étaient où ceux-là?
Oh ben, je pense que comme M. Coupe de Murville et quelques autres, ils ont eu des facilités pour traverser et se sont installés dans les postes plus paisibles. Certains sont allés en Amérique, où ils avaient certainement un travail très important à faire.
Ben, il fallait bien du monde en Amérique, parce que quand même, c'est vrai au fond. Puis ensuite, j'espère qu'ils ont été décorés quand même au retour.
Ah ben, je pense que c'est que ces gens-là, étant à des postes très importants, ont eu ce que les autres n'ont pas eu, c'est-à-dire les postes qu'ils méritaient à la libération.
Quel était le sentiment de... Parce que je suis toujours fasciné quand je reçois un historien de cette période. En général, d'ailleurs, ces historiens ont vécu eux-mêmes cette période. Ils sont à la fois témoins et historiens. Je suis toujours fasciné par... le fossé extraordinaire qui sépare ce qu'il me raconte de ce qu'on entend habituellement. Par exemple, l'autre jour, on a eu la visite d'un ancien pilote qui nous expliquait que l'aviation française avait combattu tantôt contre les Allemands, tantôt contre les Anglais dans le ciel de l'Afrique du Nord. Et il y a des moments où on avait l'impression qu'on ne savait plus très bien comment on s'appelait, parce que je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Vous nous dites que vous avez combattu les Allemands sur la frontière tunisienne en 1942. On sait par ailleurs que les gaullistes sont battus contre troupes régulières en Syrie en 1941. Donc tout ça, Dakar. Bien sûr, Dakar. On a eu aussi un officier de marine qui est venu nous raconter ce qui s'était passé à Dakar. Et tout ça, on a l'impression que si on expliquait ça à un jeune de 20 ans aujourd'hui ou de 19 ans, si on lui disait voilà ce qui s'est réellement passé, il dirait mais vous êtes des fous, vous inventez des histoires là. En fait, c'est pas vrai du tout. C'est les nazis allemands et les nazis français qui ont voulu tuer les juifs, et les américains et les anglais sont venus pour défendre les juifs. C'est bien ça qui s'est passé. Ça a commencé en 1939, ça s'est arrêté en 1945.
C'est comme ça qu'on veut écrire l'histoire.
Et les soviétiques sont venus aider les communistes français à protéger les juifs. C'est bien ça.
C'est comme ça qu'on écrit l'histoire, et c'est pour ça que je ne suis pas un historien, mais simplement quelqu'un qui veut porter témoignage. J'écris ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que mes camarades ont vécu. Et je veux donner l'opinion que nous avions tous à l'époque, quand on avait 20 ans, et où le choix était pas si facile à faire.
Pardon. Le choix était si peu facile à faire que... Certains n'ont pas été capables de le faire, comme le président de la République, qui était à la fois résistant et décoré de la Francisque, ce qui quand même c'est une très belle opération. Alors, donc on sent que là, jusqu'au dernier moment, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire pour servir mon pays dans les meilleures conditions.
Je peux vous donner un autre chiffre qui concerne la première armée française. Le nombre de résistants qui sont engagés à la première armée française est de 137 000. 137 000, dont la plupart n'ont pas combattu parce que la guerre a pris fin. Il faut bien reconnaître que sur une nation qui, à l'époque, devait compter une quarantaine de millions d'habitants, ça représente pas grand-chose.
Oui, enfin, c'est un petit pourcentage, effectivement.
Je reconnais que, parce que j'étais parachuté en France, et donc une opinion très personnelle sur la résistance, je reconnais qu'il y a eu des résistants extraordinaires, mais pour moi... Une fois son pays, sa paroisse libérée, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin.
Mais on constate d'ailleurs que la résistance prise dans son ensemble est un phénomène statistique tout à fait exceptionnel sur le plan démographique. Car c'est le seul groupement humain qui constitué de gens d'une classe d'âge à peu près homogène et affronté à des difficultés qui lui font avoir une perte de personnel accélérée par rapport à l'usure normale des classes d'âge. A, au contraire de ce qu'on pouvait attendre, a accru son nombre à mesure que les années passaient. C'est un phénomène tout à fait étonnant. Moi, j'ai toujours entendu dire
que j'avais... Je pense que c'est parti très tôt, puisque De Gaulle, qui je pense s'y connaissait, disait qu'il y avait plus de médailles de résistance distribuées que de résistants.
Oui. Mais ça, c'est normal, il fallait rendre service à la famille, aux amis, etc. Pour en revenir à la première armée, quelle était l'ambiance de cette armée qui était pour le moins paradoxale à la fois dans ses origines et sa composition et son activité?
La seule idée de cette armée, c'était se battre. C'était se battre, c'était une armée jeune, une armée de gens qui avaient entre 18 et 25 ans. Il y avait bien sûr l'aventure glorieuse, il y avait qui était important, qu'il y avait surtout l'envie de faire la guerre, l'envie aussi d'effacer la lâcheté d'une nation qui attendait ses points textiles et qui attendait les petits quais de matière grasse plutôt que de prendre parti.
Et quels étaient les rapports avec les autres armées, par exemple avec la 2e DB ou avec...
Il faut savoir d'abord que la 2e DB était pour au moins les deux tiers composée de gens de l'Afrique du Nord ou de gens de la 1ère armée, contrairement à la légende.
Ah, des gens qui avaient été prélevés sur la 1ère armée.
Bien sûr, j'appartenais à un régiment qui s'appelait le 12e chasseur d'Afrique, qui rentrant du Sénégal, où on nous avait envoyé en renfort après l'affaire de Dakar, rentrant du Sénégal, notre régiment a été dédoublé. On a fait un 12e chasseur, un 12e cuir, donc nous venions de l'armée d'armistice. C'était la même chose pour le régiment de fusiliers marins, c'était la même chose pour le régiment d'artillerie, et le matériel qui équipait la 2e DB pour aller en Angleterre venait du matériel attribué par les Américains à la 1ère armée.
Et quelle était l'opinion des cadres, en tout cas, sur De Gaulle, par exemple? Parce qu'il y avait une rivalité des chefs, vous parliez de Giraud tout à l'heure,
oui.
Il y avait aussi Juin dont on pourra parler à propos du corps expéditionnaire.
Au niveau du chef de section, ce que j'étais à l'époque, après avoir été un brigadier chef passé par Cherchel, il n'y avait vraiment aucun jugement, sauf le fait que les unités de la 2e DB et de la Gaulliste avaient essayé de faire un recrutement à la sauvette chez les gens de la 1ère armée.
Ça expliquait les hommes
Oui, les gens, on vous invitait à déserter en promettant des galons, en promettant une solde plus forte pour aller étoffer la DFL.
C'est totalement dément.
C'est un débauchage assez extraordinaire. Je cite d'ailleurs la phrase d'un général qui a posé la question à De Gaulle, qui demandait s'il voulait vraiment une armée ou deux armées.
Et quel était le statut du corps expéditionnaire en Italie qui était dirigé par
Juin? Si vous voulez, c'est la suite logique de cette armée d'Afrique qu'on a envoyée en Italie à partir de décembre 1943. On a envoyé d'abord deux divisions dont les Américains comptaient faire des coulis pour décharger les bateaux. Et finalement, le père Juin s'en est fort bien sorti. On a eu jusqu'à 110 000 hommes en Italie. Et ce sont, il faut le savoir, que ce sont les manœuvres de Juin et des Français, les sacrifices des Français qui ont permis de crever le front en Italie, de dépasser Cassino, d'atteindre Rome et Sienne.
Ce qui est étrange quand on vous lit et quand on vous entend parler, quand on vous voit, ce que naturellement nos auditeurs ne peuvent pas faire, c'est qu'on a l'impression que vous avez gardé de cette période une grande fierté d'avoir appartenu à cette unité, mais en même temps une grande amertume.
Une grande fierté, oui, à cause des gens qu'on y a fréquentés, des gens qu'on y a trouvés. Et une grande amertume, alors ça on la retrouvera tout le long, parce que si on parle de l'Indochine ou de l'Afrique ou de l'Algérie, une grande amertume parce que nous avons toujours été les bâtards de la nation.
Vous pouvez expliquer cette idée?
La France, une fois l'affaire faite, une fois la libération, a considéré que nous n'avions plus rien à faire, que nous avions été volontaires, donc... Tout ce qui pouvait nous arriver, c'était très bien pour nous. Les places étaient prises quand l'affaire a été terminée. Une partie de mon bataillon, une partie de ma section en particulier, a été libérée après l'armistice, quelques mois après. Et on leur a donné un billet de 1000 balles et on les a habillés avec des tenues de la Kriegsmarine pour les envoyer chez eux.
Ils ont dû être bien accueillis.
Oui, d'abord, ils n'étaient pas tellement satisfaits. Et ensuite, l'accueil n'a pas été tellement chaleureux. Il faut dire qu'il y avait à l'époque 1 500 000 prisonniers qui revenaient, qui avaient besoin des places. Et puis, il y avait des gens qui étaient restés dans le pays et qui, eux, avaient préparé la suite. Quand l'armistice est arrivé, moi, j'étais en Autriche, au dernier jour de la guerre, le soir où on a appris que c'était fini, nous étions quatre sous-lieutenants ou aspirants dans la compagnie, on s'est regardé en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça fait 5 ans qu'on faisait la guerre. Et
vous aviez quel âge à ce moment-là?
À l'époque, j'avais 24 ans.
Vous vous êtes engagé, vous aviez 19 ans, c'est ça?
J'avais 19 ans quand je me suis engagé, oui. Je venais de la zone occupée, j'ai pris mon petit vélo, je suis allé en zone libre, j'ai pas trouvé de filière, alors je suis parti clandestinement en Afrique du Nord en décembre 40, en me disant je vais passer par Gibraltar, enfin j'avais très rapidement étudié mon itinéraire sur une carte sommaire, et arrivé au Maroc, bon, je n'avais plus rien à vendre pour subsister, j'avais vendu mon pardessus à Oran.
Mais vous êtes passé par l'Espagne ou...
Non, je suis passé par bateau à fond de cale. À l'époque, il y avait les commissions d'armistice qui surveillaient les bateaux à Marseille, mais il y avait une complicité très active de la part des militaires français chargés des embarquements. Alors, on m'a fait passer à fond de cale avec des tirailleurs rapatriés sanitaires. Et j'ai débarqué à Oran, j'ai pris la route, et puis je vous dis, à Meknès, n'ayant plus de moyens d'existence, j'en ai pris pour 3 ans dans les pays à cheval.
Mais qu'est-ce qui fait qu'un garçon de 19 ans, je poserai la même question tout à l'heure à Christian, mais qu'est-ce qui fait qu'un garçon de 19 ans fait une chose aussi folle, même sur son vélo? Parce que vous étiez à Paris, vous étiez à Orléans. Mm-hmm. Donc un jour, vous avez pris votre barda, enfin votre baluchon, j'imagine, votre vélo, et vous êtes dit, je vais partir en Afrique du Nord. Quand ça se passe dans la tête d'un gosse de 19 ans?
À cet âge-là, le choix est tout à fait subjectif. Il y a des tas de détails qui interviennent. Bon, mon père a fait la guerre de 14, bien entendu. On a toujours parlé du pays, de la France. Et voir les Allemands chez moi, ça ne me satisfaisait pas. J'aurais préféré les voir ailleurs. Maintenant, je reconnais que si la guerre avait été déclarée immédiatement par les Allemands contre l'URSS, mon choix aurait peut-être été différent. Mais là, je ne voyais pas d'autre solution. Et puis, il y a quand on a moins de 20 ans, et quand on a l'impression d'être devenu un homme, on a envie de vivre ce genre d'aventure. On a envie de faire la guerre. Enfin, je pense qu'un garçon normalement constitué, dans des circonstances comme celle-là, quel que soit son choix...
Alors, l'armistice, la première armée se trouve...
La première armée a été dissoute très vite. A été dissoute, je pense, au mois de juillet 1945. Delattre a été remercié très vite. On lui a donné un poste de seconde zone. Et l'armée d'occupation était commandée par Koenig, qui avait d'autres états de service.
Quels sont devenus les hommes de la première armée?
Les hommes de la première armée sont retournés chez eux pour la plupart. Les Nord-Africains sont retournés chez eux, les Pieds-Noirs sont retournés chez eux. Une partie des métropolitains, les FFI qu'on nous avait donnés, qui sont venus chez nous, certains ont été extrêmement courageux, ont complété nos unités, ont créé des unités nouvelles. Ceux-là sont retournés chez eux, ce qui était normal. Et puis à ce moment-là, les gens de mon acabit, qui ne savaient rien faire à part la guerre, décidé de rester dans l'armée parce qu'il y avait le Japon. On pensait aller au Japon, mais ça a été trop vite, on n'a pas pu aller au Japon, mais alors il y avait l'Indochine. Et on est parti en Indochine, ce que disait la Mazière tout à l'heure, pour reconquérir l'Indochine. On n'allait pas là-bas se battre contre le communisme, on allait rendre l'Indochine à la France, et on n'avait pas d'autre idée. La lutte contre le communisme en Indochine est apparue tard, elle est apparue en 50, au moment de la guerre de Corée.
Exact.
Alors on est parti en Indochine avec, si vous voulez, les théories de Gallieni pour une guerre de reconquête avec les canonnières et les postes, et d'autre part, les théories de Patton et des divisions blindées, le tout manipulé la plupart du temps par des gens qui avaient vécu 5 ans en captivité, c'est vous dire les chances de réussite que nous avions.
Alors ce qui est très frappant dans l'album que vous avez publié, c'est la qualité de l'iconographie. Comment avez-vous travaillé? Vous avez retrouvé des témoins? On vous a confié des documents?
Une partie des photos vient bien sûr d'Ivry, de l'ECPA, mais une partie importante vient de la collection de la maréchale de Lattre.
Ah, c'est ça.
Plus quelques photos d'anciens et de camarades qui m'ont prêté des photos.
Et vous avez donc retrouvé, vous êtes allé voir tous vos anciens camarades, vous avez retrouvé des témoins.
Oui, bien sûr.
Quelle a été leur réaction quand vous leur avez annoncé votre projet?
Tous ont été d'accord pour dire il faudrait enfin qu'on rétablisse la vérité, il faudrait enfin qu'on parle de nous. Alors j'ai bien sûr un certain public pied-noir, parce que j'ai vécu longtemps en Afrique du Nord, je suis marié avec une femme d'Afrique du Nord, et c'est chez ceux-là en particulier, et chez ceux qui ont fait cette rapide campagne, j'ai trouvé vraiment des gens qui voulaient qu'on parle d'eux, parce qu'on n'en parle jamais, parce que ces gens-là ont quand même fait des choses qui dépassent ce qu'ont fait les Français moyens, mais jamais on ne parle de cette première armée. On vous parlera de la division Leclerc, parce que Leclerc, à juste titre, il faut qu'on en parle, a libéré Paris, a libéré Strasbourg, qui sont des étapes importantes, mais la première armée a libéré Toulon, a libéré Marseille, a libéré Lyon, Dijon, Et la première armée a toujours été moins bien équipée parce que avec les 256 000 collections que nous avaient offert les Américains, on a équipé plus de 320 000 hommes. Le corps expéditionnaire français en Italie avait les casques français. Dans mon unité au bataillon de choc, on avait le casque de motorisé avec le bandeau de cuir, on avait des FM français, mais on avait des mitraillettes anglaises.
Alors beaucoup d'auditeurs nous appellent, enfin des auditeurs, beaucoup c'est beaucoup dire, mais plusieurs auditeurs appellent pour s'étonner qu'on ne parle pas plus longuement du maréchal Juin et du corps expéditionnaire d'Italie. Ah.
Parce que la première armée, si vous voulez, le corps expéditionnaire d'Italie ne faisait pas partie de la première armée. Il n'en a fait partie qu'à partir de juillet 44.
Un auditeur nous dit qu'il s'est engagé en 42 avec 3 mois de retard. Mais comment savoir, dit-il, j'ai eu la rage au cœur de ne pouvoir partir. Surtout le 8 novembre était un jour affreux pour moi, j'avais 21 ans. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le 8 novembre ?
Le 8 novembre, j'étais au Sénégal et nous avons appris
l'occupation de la zone.
C'est la zone sud.
L'invasion de la zone sud par les Allemands, le sabordage de Toulon et cette histoire.
Mais il faut que tu parles dans le micro, Christian, oui. On entend vraiment.
Après le débarquement allié en Afrique, les Allemands ont envahi la zone sud et ont démobilisé. Toute armée d'armistice qui était là, ce qui a fait pour une grande partie, sauf moi et quelques-uns, des contingents, des futurs contingents de la première armée et certains aussi de l'armée du corps expéditionnaire en Italie.
Alors un auditeur, commandant Muel, vous demande le nom du bateau dans lequel vous avez traversé la mer, est-ce que vous en avez
souvenir ? Chenonceau.
Le Chenonceau, voilà.
Le Chenonceau qui a été coulé d'ailleurs, je crois, à Oran, le 8 novembre 42.
Notre auditeur demande si vous avez connu le prince.
La mère Zelkébi, plus particulièrement peut-être, non ?
Non.
C'est pas l'étape partie de
non,
cette...
Non, c'est
pas la même époque.
Il a été coulé au moment où les Allemands bombardaient le 8 novembre.
Un autre auditeur demande si vous avez connu le camp de travail des Vietnamiens qui se trouvait sur le plateau de Langres en 44-47.
Non.
Et un auditeur regrette la vieille rivalité lamentable entre les deux armées, dit-il. La première armée équipée en Afrique du Nord, la deuxième DB faisait partie de la 8e armée Patton américaine, entièrement équipée en Angleterre par les Américains. Rien n'a été prélevé, dit-il, sur la première armée pour donner à la deuxième DB. Les Américains voulaient de toute façon équiper entièrement la deuxième DB.
Non, la deuxième DB a été équipée à Témara en octobre... septembre-octobre 43, avec le matériel qui débarquait à Casablanca. Dans le bouquin officiel, la Bible, si vous voulez, qui est le journal de marche de Delattre, ces faits sont établis.
En tout cas, je recommande chaudement la lecture de l'album que vous venez de consacrer à la première armée. Il est superbe, il est très très riche en illustrations dont beaucoup me semblent inédites, si tant est que...
Oui,
j'ai l'impression, oui, qu'il y a beaucoup de photos inédites. Et le texte en est passionnant. Enfin, c'est un livre tout à fait intéressant qui permet de découvrir un aspect de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la libération qui a effectivement été occulté ou en tout cas négligé par l'histoire officielle depuis des années. Si on veut comprendre pourquoi, on peut aussi lire le passionnant livre que Henri-Christian Giraud a consacré aux relations de son grand-père avec le général de Gaulle, son grand-père qui était le général Giraud dont vous parliez tout à l'heure. Alors vous restez avec... Oui, Serge, tu veux dire quelque chose ?
Je n'avais pas l'âge de connaître cette époque. J'ai écouté cette épopée fantastique et j'ai admiré la manière dont vous la racontez, de manière à la fois modeste et chaleureuse. Et suite à l'émission d'hier soir, je me suis posé la question tout au long de votre récit, marqué par le comportement de ces gens dont nous parlions tout à l'heure, de ces adversaires imbéciles, mais ne seriez-vous pas pour eux, finalement, des xénophobes révisionnistes ?
C'est généralement l'étiquette qu'on nous donne. Le fait d'avoir écrit le bataillon des réprouvés m'a valu des accusations de défenseurs des collabos et de ce que vous voudrez. Alors que j'ai simplement dit que pour moi, comme disait Junger, le courage est le même des deux côtés de l'orage, hein, c'est tout. Et j'ai vu, puisque je les ai rencontrés en Indochine, j'ai vu des soldats français qui se battaient bien. Et pour moi, c'était largement suffisant qu'ils aient pris une autre voie que la mienne, du moment qu'ils pensaient à la France. Je n'y vois pas d'inconvénient.
Ils avaient été à bonne école.
Alors on va parler justement de ce même courage des deux côtés de l'orage avec Christian de Lamazière et vous, commandant Muel, dans un quart d'heure à peu près, parce que nous allons consacrer ou 10 minutes, un quart d'heure à Georges Brassens, dont un auditeur nous dit que lui qui est musicien, il le considère comme un anarchiste de salon, et qu'il le déteste. Mais j'espère que cet auditeur voudra nous accorder 10 minutes pour parler de quelqu'un que nous, on aime bien. Je suis désolé que lui, il déteste. Nous, on l'aime bien. Ça ne sera pas très long. Donc, il peut nous reprendre vers 8h moins le quart et il n'aura pas à subir Brassens et son anarchisme de salon.
Monseigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mette son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, chasse de son toit, oui mais de son toit, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à froufrou, tout le reste en m'indiffère.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite CanalSat et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net.
Découvrez à l'écoute de Radio Courtoisie la lettre d'information des auditeurs de Radio Courtoisie.
À l'écoute de Radio Courtoisie, c'est chaque mois deux pages d'actualité de la radio, un portrait, une tribune libre, des conseils de patrons, le courrier des auditeurs et trois chroniques, c'est-à-dire de Didier Roy, Le Mot Juste, consacré à la défense de la langue française, et Fidèle au poste, notre rubrique de libre propos sur les émissions de Radio Courtoisie. Tous les mois, à l'écoute de Radio Courtoisie, vous raconte ce qu'il faut savoir sur votre radio.
C'était un message de Pierre-Alexandre Bouclet, rédacteur en chef d'À l'écoute de Radio Courtoisie, la lettre d'information des auditeurs. Disponible sur abonnement au prix de 10 euros seulement pour 11 numéros. Envoyez votre chèque d'abonnement à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez aussi demander un exemplaire gratuit en nous écrivant ou en nous téléphonant au 01 46 51 00 85.
Très belle nuit à tous, merci de la passer en notre compagnie. Je vous rappelle qu'à 5h, comme tous les dimanches, Radio Courtoisie cédera la place à Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Et qu'à 6h, vous pourrez suivre l'émission Chant Grégorien proposée par Patrick Banken, président d'Una Voce. Et pour l'heure, voici tout de suite la seconde partie du libre journal de Serge de Beketch du 4 décembre 1991. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 3h30. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez un libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria. Une émission du 4 décembre 1991, rediffusée dimanche 9 mai 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Alors voilà, on va consacrer 10 minutes à Georges Brassens, mais je tiens quand même à donner la parole à la contestation, puisque cet auditeur dit qu'il aime beaucoup Radio Courtoisie, qu'il aime bien cette émission, mais qu'étant musicien, il déteste cet anarchiste de salon qu'était Brassens, et dont la musique ne vaut rien. Alors, moi je suis pas musicien, mais
non plus. Je n'entamerai pas une discussion sur la question de sa qualité musicale, car je ne suis pas musicien moi-même. Mais dans Brassens, il y a de la musique, c'est entendu, mais il y a aussi du texte, il y a aussi de la poésie, il y a aussi un langage. Et alors sur cette question-là, moi j'ai une position qui est extrêmement ferme. Je trouve que tout ce qu'il écrit est d'une extraordinaire qualité, extrêmement large, ample, poétique au sens le meilleur du terme, et est extrêmement française aussi en même temps. Car il y a dans le texte de Brassens, il y a dans le style de Brassens, il y a un enracinement dans le terroir français qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, et c'est à partir de là que j'ai fait la comparaison que j'avais faite avec Louis-Ferdinand Céline en juxtaposant des textes de l'un et de l'autre, des phrases de l'un et de l'autre, et où on s'aperçoit que l'origine est la même, la source est la même. Tout ça part du terroir, tout ça est extrêmement français, et c'est d'une qualité qui est absolument extraordinaire. Je regrette de ne pas avoir de texte entre les mains en ce moment, mais enfin, il y a dans toutes les chansons de Brassens, par moments quelque chose qui est d'une tendresse extraordinaire, qui est d'une qualité absolument inégalable, c'est pas avec un brin de...
Voilà des textes, par exemple,
là, que Philippe nous communique. Alors,
oui, on pourrait... Bah, tiens, tu parlais de l'enracinement et la tradition. On pourrait lire un petit extrait de Pauvre Martin.
Pauvre Martin,
un type même de la poésie, enfin, du poème traditionnel. Ça fait Villon aurait pratiquement pu l'écrire.
C'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, c'est Brassens est dans une tradition qui remonte jusqu'à Villon.
Je ne sais pas si on va le lire, on pourrait peut-être l'écouter
non,
d'ailleurs plus tard.
On peut l'écouter, c'est aussi
ça
bien.
Ça sera plus joli avec la
c'est
musique.
C'est aussi bien. Mais,
je pense à Brave Margot aussi, qui est un texte ultra, ultra connu, et ça pourrait être du Rabelais.
Alors ça, c'est, oui, c'est ce que je veux dire. Tu me le coupes à tous les... Et ça, c'est Rabelais, n'est-ce pas? Mais c'est toujours le 16e siècle. C'est-à-dire quelque chose qui est un sommet de la langue française.
Christian, tu voulais dire
quelque chose ? Oui, j'ai bien connu Georges Brassens, puisque j'ai évolué et passé une partie de ma vie dans le cinéma et le showbiz. Et d'ailleurs, le premier film qu'il a fait, le premier et le seul film, Porte des Lilas, avec Fallet, j'ai été chargé de faire toute la communication de presse. Je reviens à ce qu'on a disait tout à l'heure pour la musique et ce qu'a dit cet auditeur. Georges Brassens était toujours très meurtri parce qu'il pensait que les gens n'estimaient pas sa musique à sa juste valeur. Or, je dois dire une chose, ce qui a fait qu'on a l'impression que Brassens n'est pas un musicien, alors qu'il était un musicien. On peut étudier sa musique, elle est très bien faite, très bien structurée. C'est que Brassens a toujours chanté sans orchestre, grand orchestre, et sans cet habillage qui fait en général le volume des disques. Il chantait, lui, à sa guitare, et avec sa contrebasse, avec son fidèle contrebassiste. Et donc, il est évident que ça n'avait pas cette ampleur, il n'y avait pas les arrangements musicaux qui font qu'une ligne mélodique d'un seul coup devient d'un opéra, ce que l'on veut. Mais Brassens était un grand musicien.
Oui, je le crois, mais moi je ne suis pas musicien, donc je ne juge pas, mais je peux dire
que... Mais en revanche, tu es écrivain et tu es grand lecteur, tu es grand dévoreur de Céline et autres...
Je tiens pour un poète de tout premier plan et tout à fait dans notre tradition, et je dis, on peut le rattacher à tous les plus grands poètes français, dont il a l'expression rapide, nette, claire, et très souvent en même temps la tendresse, la qualité, la sensibilité.
Ce qui est évident quand on écoute ces textes et qu'on les compare avec les textes qu'on entend aujourd'hui et qui sont, je parle même pas naturellement, pas des Ben Guigad et comment s'appelle ce personnage, des Bruelleries, mais même si on essaye...
C'est le même d'ailleurs.
Oui, c'est le même. Même si on essaie de trouver aujourd'hui des chanteurs à texte, entre guillemets, on est littéralement atterré par la nullité totale des textes, même ceux qui ils font preuve d'une certaine recherche, en comparaison avec les textes de Georges Brassens.
Absolument. Mais je donne un exemple. L'actrice Marie Marquet avait monté un petit spectacle dans lequel elle disait les textes de Brassens. La musique était éliminée, ne paraissait pas. Mais elle disait les textes. Bien, mais c'est extraordinaire, comme ça tient le coup, comme ça tient la route, comme ça passe bien la rampe.
Ceci étant, je vais défendre les plus jeunes, parce que je ne sais pas si vous avez quelquefois écouté du Teil avec la langue de chez nous, ou prendre par la main.
Oui, c'est
la main.
C'est voilà. Pas mal non plus. La langue de chez nous et un enfant par la main.
Ce que vous dites là, j'ai eu l'occasion de le dire, même publiquement, lors d'une de mes conférences, j'ai parlé de du Teil, et j'ai dit l'homme qui a trouvé on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, et bien celui-là également est dans la grande tradition.
Pour exprimer la musique de la langue française. Oui. Ça, c'est effectivement absolument une très jolie phrase. Mais
d'abord, tout à fait
tu as raison, Serge, repêchons du Teil et rattachons-le aux branches de l'arbre Brassens.
Ce qui prouve qu'on est toujours très très gentil à droite et pas sectaire du tout, parce que M. du Teil, il est pris parti contre la croisade, enfin, il fait partie de la croisade contre le Teil. Il a fait ses déclarations.
Mais
ma chère Victoria. Donc ça prouve que
beaucoup de gens qui sont des gens de talent, des artistes, et puis dès qu'ils ouvrent la bouche pour parler politique, c'est des cons, n'est-ce pas? Mais ça, il y en a beaucoup, moi j'en ai connu.
C'était ce que j'allais dire, fait-il partie des adversaires ou des couillons en politique, je ne sais pas.
Il faut rendre justice à la vérité. À l'heure actuelle, pour un employé du show business, parce que les chanteurs sont des employés du showbiz. Ils n'enregistrent des disques que s'ils ont une maison de production. Ils ne passent à la télévision que s'ils ont des gens qui s'occupent de les faire passer et qui payent, qui donnent des pots de vin aux animateurs de télévision et aux présentateurs de radio pour passer leurs disques. Eh bien, ces gens-là, s'ils veulent travailler, ils sont obligés de dire Le Pen, Cacaboudin. S'ils ne disent pas ça, c'est fini. Ils sont génocidés.
Absolument.
Hein? Ils sont éradiqués de la profession. Et la meilleure preuve, c'est que je crois que c'est Dumont. Charles Dumont, qui avait accepté de chanter dans une réunion des Bleus Blancs Rouges.
On lui reproche encore.
Il n'a plus travaillé tout pendant trois ans. Et mieux que ça, il commence à ressortir un petit peu ces temps-ci. Il a fait un gala, je sais pas où. Et immédiatement, les journalistes flics de Télérama lui sont tombés sur l'orable en lui disant « Alors, monsieur Charles Dumont, vous avez chanté pour les nazis. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous avez une excuse ?» Et il a dit, ben vous savez, ben bon, je peux dire que c'est plus un secret maintenant que Johnny Hallyday avait accepté de chanter au BBR et que Charles Marouani, je crois que c'est Charles Marouani qui est son impresario, lui a dit, vieux, si tu vas chanter au BBR, c'est terminé. Tout Hallyday que tu es mort professionnellement, nous te tuerons. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Hallyday? Il a dit, que j'irai pas chanter au BBR parce que c'est ça où il participe à la curée, ne serait-ce que... Et il n'est pas question d'y participer silencieusement. Il n'est pas question pour le chanteur de dire, à la question « Pensez-vous que Le Pen est la peste ou le choléra ?» Il n'est pas du tout question qu'il réponde « Écoutez, moi, je suis un chanteur, je ne fais pas de politique publique. Pas plus que vous n'allez demander à Monsieur Chirac de chanter, d'en pousser une sur l'estrade, vous n'avez à me demander à moi d'exposer mes opinions politiques. Par conséquent, je ne répondrai pas à votre question. » S'il répond ça, alors on lui dit, mais alors vous êtes pour, donc vous êtes pour Le Pen, donc vous êtes un nazi. Combien de juifs avez-vous tué pendant l'occupation? C'est ça qui est là. Mais monsieur, moi je suis né en 1960. Mais si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Bon, et donc le pauvre Dutheil, je ne sais pas quelle est son opinion, d'ailleurs je m'en fous, mais le fait est qu'il n'a pas le choix. Et c'est un choix, absolument, il n'a pas. Eh bien, j'ajoute un détail, si j'ose employer ce mot, c'est que quand Madame Béatrice Dalle est arrêtée ce matin ou hier après-midi, en train de voler des bijoux dans une bijouterie, c'est-à-dire on retrouve dans ses bottes cuissardes 25 000 francs de bijoux volés. Béatrice Dalle, c'est la comédienne de 37 de matin. Eh bien, on nous dit... La comédienne Béatrice Dalle, qui était la célèbre Betty de 37-2 le matin, a été arrêtée au moment où elle dérobait des bijoux dans une bijouterie tenue par un ami de son mari, ce qui naturellement n'est pas grave du tout. Si c'est un ami de la famille, c'est pas grave de le voler. Elle était dépressive. Bon. Elle a été aussitôt remise en liberté et elle comparaîtra devant la justice dans les semaines qui viennent. Je trouve personnellement que les flics devraient être punis d'avoir arrêté cette jeune personne qui était dépressive, qui se contentait de voler des trucs à un ami de son mari, ce qui est vraiment pas grave. Et puis en plus, qui est une comédienne qui a signé tous les trucs, toutes les pétitions. Bon, alors on a plus besoin de Madame Béatrice Dalle dans le combat contre la bêtise monde qu'en prison pour vol de bijoux. Bien d'accord. Donc n'en voulons pas trop à cette corporation. Les pauvres, ils font où on leur dit de faire. Tandis que Brassens, c'était tout à fait autre chose. Et malheureusement, on n'a pas le disque ici. C'est fort dommage car c'est une belle chanson. Christian, tu nous racontes...
Une belle chanson anarchiste,
d'ailleurs. Oui, alors, raconte-nous cette histoire.
Eh bien, quand j'ai terminé, quand mon livre a été publié, Le Rêveur Casqué, je l'ai envoyé à Georges, qui était en vacances en Bretagne, où il avait une maison. Et je l'ai lui envoyé. Il y avait Fallet avec moi qui m'a dit, c'est lui d'ailleurs, c'est René Fallet qui m'a dit, envoie-le à Georges. Comme Georges avait été ce que l'on appelle pudiquement maintenant des déportés du travail, c'est-à-dire qu'il avait été en Allemagne... Et c'est là où il a ramené sa compagne avec qui il a eu, une délicatesse de pensée, de qualité, de comportement tout à fait exceptionnel. Et Fallet m'a dit, envoie-le, il en a rien à foutre, il m'a dit, si, envoie. Alors j'ai donc envoyé ce livre à Georges, et 48 heures après, la poste marchait beaucoup mieux à cette époque-là que maintenant, 48 heures après, il l'avait... Il m'a appelé avec cette retenue, cette qualité qu'il avait. Il m'a dit, Christian, j'ai reçu ton livre, je l'ai lu dans la nuit. Je vais faire une chanson là-dessus. Je lui ai dit, si. Il m'a dit vraiment, parce que toutes ces conneries, ça vaut pas le coup, je vais faire une chanson. Et c'est comme ça qu'est née cette chanson. Et je peux dire qu'elle
m'a été... Mourir pour des idées.
Mourir pour ses idées, et qu'elle m'a été... dédié comme ça au bout du fil, on en a parlé par la suite et j'ai mille et une raisons de trouver que c'est une chanson tout à fait exceptionnelle.
Ben, j'aurais bien aimé qu'on puisse l'écouter, mais on ne l'a pas dans la modeste, très 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 modeste discothèque de Radio Courtoisie. Alors un musicien qui reconnaît aussi la qualité musicale de Georges Brassens nous faxe le commentaire suivant. Peut-être serait-il bon de rappeler l'anticonformisme de monsieur Georges Brassens, qui n'hésita pas en son temps à mettre sur le même plan l'oncle qui aimait les teutons et celui qui aimait le Tommy, ce qui lui valut les reproches amers de certains de ses amis, effectivement.
C'est la chanson en question.
Et en revanche, un auditeur nous dit, et là je suis tout à fait de son avis, je dois dire, c'est une chanson que j'exècre de Brassens, c'est une chanson qui est extrêmement déplaisante.
Une gorille.
Non, au soleil rigolote. Non, elle s'appelle La balade des gens qui sont nés quelque part, qui est une chanson tout à fait, il faut le dire, tout à fait anti-nationaliste. Et cet auditeur nous dit, pensez-vous que cette chanson exalte l'enracinement? Non, je pense pas du tout, je pense exactement le contraire. Je me demande si on comprend bien ce qu'a voulu dire Brassens. En tout cas, c'est une chanson qui est très, très anti-nationale. En tout cas, anti-chauvine ou anti-chauvin. Ouais, et comme moi, je suis très chauvin, je me sens agressé par cette chanson.
Je crois que quand on connaît un peu, ou quand on a pratiqué Georges, qui était un temps, qui a été l'objet de beaucoup d'attaques, des incidentes très mauvaises, tu sais. S'il n'avait eu affaire qu'à des gens comme toi qui lui auraient dit « Ah, moi, j'aime pas du tout cette chanson. »
Oui, mais j'en aime tellement d'autres, par exemple.
Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi il a écrit, donc je ne, y a aucun commentaire à faire, mais je dois dire que ça n'enlève rien à ce qu'est cet homme, qui est vraiment, comme me l'a dit tout à l'heure Meunier, c'est vraiment un grand Français.
Oui, je voulais que Pierre en parle. Je voulais que Pierre en parle ce soir.
Il y a une chanson aussi également qui est extraordinaire, c'est celle sur la tondue.
Oui, qu'on a passé ici, on en a fait
merveilleux.
Oui, on oublie tout ça. Il ne pourrait pas, à l'heure actuelle, avec la montée du Front National, il lui serait interdit de diffuser, de chanter en public toutes ces chansons qu'il a écrites. Il ne faut pas oublier ça. Je trouve qu'on ne peut pas exiger des gens d'être, de partager à 100% notre combat politique. Il faut comprendre les nuances, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, on ne le dit pas assez, c'est que tous ces gens du spectacle, dont tous ne sont pas méprisables, de loin, subissent des pressions qui sont incroyables, comme nous subissons des pressions. Ils font en sorte de créer des ghettos, et pour les autres, s'ils veulent vivre dans cette fameuse société civile, les gens sont obligés de céder à bien des...
Je fais des gestes qui ne te sont pas destinés. Merci, Christian, d'avoir apporté ce témoignage totalement inédit sur Brassens. Pierre, je suis content que tu aies pu parler attirer l'attention, le regard de nos auditeurs qui peut-être peuvent avoir une mauvaise opinion de Brassens, parce que c'est vrai qu'il a un côté anard qui est parfois un peu choquant, mais que tu aies pu attirer leur attention sur sa filiation littéraire avec Céline, avec Rabelais.
C'est
avec,
tellement avec évident pour les gens qui s'habillent
avec les troubadours.
Et avec les troubadours, c'était
absolument.
Il est
dans la tradition.
On va écouter une deuxième chanson de Georges Brassens pour clore dignement ce petit quart d'heure.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon brûlant spangarde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot brûlant prend garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence prend garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts. Tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir, nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai dressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Là, je trouve qu'on a fait quand même très très fort, parce qu'un texte de cette vieille crapule d'Aragon, chanté par ce vieil anarchiste de Brassens, il y a de quoi faire chuter vertigineusement l'audimat de Radio Courtoisie.
Tous nos auditeurs sont en larmes.
Mais c'est un texte admirable.
Des larmes d'émotion.
Admirable. Il faut dire, Aragon, une fois dans sa vie, aura écrit autre chose que de l'ordure.
Et puis nous ne sommes pas sectaires.
Non, bien
et
sûr.
Et c'est nous les meilleurs.
Voilà. Un chanteur formidable, nous dit un auditeur, c'est Daniel Guichard, qui avait très bien parlé chez Sabatier. Oui, c'est vrai, il est bien Guichard. Et j'admire beaucoup Brassens pour sa musique, ses paroles. Tout est très bon, nous dit une enseignante, une auvergnate, pardon, fille de Croix de Feu. Bon, vous voyez que... Là, Brassens, il divise beaucoup, hein. Oui, on parle beaucoup de Daniel Guichard, c'est vrai, on a tendance à l'oublier, parce que il fait tellement partie de lui aussi de la chanson française qu'on a l'impression qu'il a toujours été là. Vous devriez faire une émission sur la chanson française, oui, pourquoi pas, c'est un bon sujet. Mais pour l'instant, on va continuer notre émission. Alors, Marc Dem est là. Allô, Marc?
Oui.
Bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, très bien.
Alors, comme toutes les semaines, vous allez nous donner des deux ou trois petites informations, petites, pas forcément petites, deux ou trois informations inédites et originales sur l'Église catholique, informations, ou les autres églises d'ailleurs, informations tirées de votre lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle Iota Unum et qu'on peut se procurer en écrivant boîte postale 52.
J'ai trouvé un moyen mnémotechnique,
donc ça va. Boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye. Et on reçoit trois semaines de suite, gratuitement,
cette lettre, et après, si on veut s'abonner, eh bien, on s'arrange avec vous pour connaître les conditions de l'abonnement. Quelle information amusante, originale, irritante avez-vous cette semaine?
Alors, la première est plutôt irritante, c'est ce qui se passe à Rome actuellement, c'est le synode européen. Irritant pour la raison suivante, c'est que ce synode matérialise l'orientation prise par l'Église depuis Assise. Et en plus, il matérialise ce synode le fait que l'Église s'occupe de plus en plus de sujets temporels. Le cardinal Martinez Somalo, un des trois délégués du pape, a bien précisé au début, le but du synode n'est pas de défendre les droits de l'Église dans cette Europe nouvelle. Le but du synode est de défendre les droits de l'homme. Donc, sécularisation. Et le problème numéro un à ses yeux, c'est le réveil des nationalistes. Le nationalisme, voilà l'ennemi. Mais il y a autre chose, c'est qu'un autre délégué du pape, c'est le secrétaire général du synode lui-même, qui a expliqué à la presse qu'aux yeux du pape, les problèmes du continent européen sont si graves que seule la réunion de toutes les confessions chrétiennes peut avoir une chance de les résoudre. Ce qui signifie que l'Église avoue qu'elle est une confession chrétienne parmi d'autres et qu'elle ne suffit pas, que son message ne suffit pas pour faire quelque chose dans cette Europe qui se prépare. Donc je crois que c'est quelque chose d'assez assez grave et d'assez important pour faire un article dans Yotawonon de cette semaine.
Et ça recoupe ce que disait Frossard ce matin, qui était interviewé sur une radio, je sais pas si c'est une périphérique ou une radio d'État, qui expliquait que le pape, contrairement à ce qu'on disait, n'avait pas salué la renaissance des nationalismes en Europe, mais la renaissance des nationalités. Et Frossard expliquait longuement, j'ai pas très bien compris d'ailleurs, mais il faut dire que je suis pas très intelligent, en tout cas moins intelligent que Frossard.
C'est assez subtil.
Oui, que le nationalisme était une chose tout à fait mauvaise et que donc il fallait pas du tout se féliciter. Il n'y avait aucune renaissance du nationalisme. En revanche, il y avait une renaissance des nationalités. Mais ça recoupe un peu ce que vous nous disiez.
Oui.
Avez-vous une bonne nouvelle alors?
Alors, une nouvelle assez pittoresque. Il paraît en ces jours-ci en Italie un livre qui fait beaucoup de bruit car il s'intitule Les femmes de Vostila. Alors, ce n'est pas...
C'est un titre délicat, en tout cas.
Ce n'est pas une chronique scandaleuse de la papauté. C'est simplement un livre à plusieurs auteurs, édité par les éditions catholiques Paoliné. Et ces auteurs, parmi ces auteurs, il y a des gens qui ne sont pas du tout des Brantômes ou des Talmans des Rayaux. C'est le cardinal Martini, c'est Jean Guiton, c'est le cardinal de Courtrai, etc. Mm-hmm. Alors, pourquoi ce titre? Eh bien, l'éditeur a trouvé que ça se vendrait avec un titre comme celui-là.
Oui, mais ça, il y a des vieux... On connaît des trucs pour vendre les livres. On sait par exemple que quand il y a Hitler dans le titre d'un livre, il se vend mieux. Alors on aurait pu aussi faire Hitler et le pape.
Hitler et Vostila.
Hitler et Vostila, c'est aussi un moyen de vendre les livres. Les femmes de Vostila.
Alors, il y a eu un auteur, qui est une femme d'ailleurs, l'écrivain russe Irina Alberti, que vous connaissez, qui vit à Paris d'ailleurs, qui avait donné une contribution à ce livre et qui l'a retiré. Qui retirait et son nom et sa contribution en disant que c'était tout à fait déplacé. Mais le cardinal Pio Laghi, lui a déclaré « Ce titre ne me déplaît pas, un titre est fait pour attirer l'attention. » On est sûr qu'il va l'attirer.
Ben voilà, c'est effectivement une information amusante. Avez-vous une de ces petites informations, comment dirais-je, mystérieuses, surprenantes, qu'on aime bien?
Eh bien, je dois dire que cette semaine, non, il n'y a rien d'un peu...
On n'a pas trouvé un morceau...
Cette histoire de... l'histoire du Big Bang, vous savez, le Big Bang...
Notre vieil ami, le Big Bang.
A toujours des nouvelles... fait toujours des nouveaux rebondissements, comme il se doit. Alors, un scientifique anglais, un physicien... américain, a trouvé, lui, que c'était très simple. Le Big Bang s'explique très bien parce que cet univers, a-t-il calculé, l'univers où nous vivons, n'est pas l'univers d'origine. Il y en a plusieurs. C'est un univers bébé qui est né un beau jour d'un univers mère.
Oui.
Alors, le Big Bang, c'est le moment où il est sorti...
On ne connaît pas le papa, non plus.
Du sein de sa mère. on ne connaît pas le papa.
Ah, c'est embêtant, ça.
Et alors, il y a ce qui vous intéressera beaucoup, c'est que l'univers mère existe toujours.
Ah.
Et qu'il est réuni à l'univers que nous connaissons par un couloir.
Oui, c'est ce couloir, le cordon ombilical.
Oui, ce couloir, c'est ça, c'est le cordon ombilical. Et est-ce qu'on pourrait l'emprunter et ainsi voyager dans le passé?
Oui, mais à condition de le rendre.
Oui, à condition de le rendre et aussi en acceptant un certain danger. Car il a calculé aussi qu'il existe dans le tunnel un étranglement, une sorte de goulot de bouteille, et que ce goulot est formé d'une quantité énorme d'énergie négative qui est mortelle pour l'homme.
Ah là là,
alors,
c'est bête.
Personnellement, je ne sais pas ce que vous ferez, mais je ne prendrai pas de billet.
Non, moi non plus, je suis bien ici, je n'ai pas du tout envie d'aller voir cette dame qui ne m'a pas été présentée et qui d'autre part apparemment doit avoir une vie un petit peu agitée, puisque comme je le disais tout à l'heure, on ne connaît pas le papa.
Voilà.
C'est quand même bien embêtant. Merci Marc Dem de nous avoir révélé ces petites et grandes choses. Si on veut en savoir plus, on envoie sa carte de visite, boîte postale 52, 78-101 Saint-Germain-en-Laye, et on reçoit un exemplaire, et même trois, de Iota Unum.
Très bien.
À très bientôt.
Voilà. À bientôt.
Voilà. Donc, Christian de la Mazière, toi qui es un aventurier né, est-ce que tu irais dans l'univers mère si l'occasion t'en était donnée?
Oui, bien sûr.
Ah, bah oui, tiens, ça m'aurait étonné. Dès qu'il y a une bêtise à faire, hop, arme petit, on y va.
Il faut savoir ce qui se passe ailleurs.
Oui, je ne vois pas l'utilité, étant donné qu'il se passe suffisamment de choses intéressantes ici. Alors, nous reprenons donc avec le commandant Muel cet entretien sur les années les plus sombres de notre histoire. Au fond, est-ce que pour vous, commandant Muel, sont des années sombres?
Absolument pas. Je dis toujours à mes enfants que je n'ai pas vu passer ma vie. Et je pense que c'est un argument qui a sa valeur.
Qu'est-ce que ça représente dans vos souvenirs? J'imagine que c'est la partie la plus lourde, la plus chargée.
C'est peut-être la plus agitée, mais la plus chargée non, parce que, à part le fait de semer les camarades en route, à part le fait de risquer sa peau de temps en temps, c'est une période passablement exaltante. J'ai vécu 23 ans de cette façon, et je pense que ça a fait des tas de souvenirs, et je pense que ça m'a aidé à me former le caractère.
Il y a une question que je me pose toujours quand je me promène dans Paris, et quand je vois ces plaques qu'on voit ici est tombé le 24 août 44, le jeune FFI Gilbert Duclos, 24 ans. Et puis je regarde autour, et alors vous avez à 10 mètres un kiosque à journaux, et vous découvrez que tel député socialiste est poursuivi pour avoir volé dans la caisse. Je me demande toujours si on disait à ce jeune homme de 24 ans qui aurait aujourd'hui 74 ans ou 71 ans, et ben voilà, vous êtes mort pour ça, vous êtes mort pour que monsieur Nucci puisse être député, pour que monsieur Tartampion puisse taper dans la caisse. Je me demande vraiment s'il a perdu ce...
Vous parliez à mon propos d'une certaine amertume, mais je pense que vous l'avez justifié complètement, là.
Mais vous, quand vous voyez ces plaques, parce que c'était vos camarades,
oui,
c'était vos camarades de quoi?
Vous savez, les morts pour rien, notre histoire en est pleine. Hein. Mais là, je pense qu'on a atteint quand même le sommet de la décadence et de la décrépitude.
Oh,
je crois que si le jeune dont tu parlais se promenait dans le quartier où est notre journal, il aurait aussi ce genre de réaction.
Ah, ça, il serait surpris d'être mort.
Très bien exprimé, et par contre, avec l'humour féroce qu'on lui connaît. Tu te souviens d'un dessin qu'il avait publié dans lequel on le voyait à une tranche de la terre avec ce qui était enterré et ce qui était au-dessus, une coupe. Et on voyait sous la terre des cadavres de gens qui étaient morts à cette époque.
C'est des Allemands, avec des casques
allemands, et au-dessus Paris tel qu'on le voit dans la Barbès par exemple, et un Allemand parlait et il disait si nous avions su, nous serions venus sans armes.
Alors, donc deux hommes, deux acteurs de l'histoire, Raymond Muel, engagé volontaire dans la première armée à 19 ans, en 1900.
Enfin, 40, l'armée d'armistice.
Et Christian de la Mazière, ancien de l'armée de ce qu'on appelle, avec une impudence rare, la drôle de guerre.
Oui.
Tu as été officier de cavalerie?
Non, non, pas du tout.
Ah, je croyais que tu étais
non,
un
non,
ancien
saumur. Non, je suis un ancien pilote.
Ancien pilote, voilà.
Ouais.
Oui, c'est la cavalerie volante, en quelque sorte. Ouais. Et ça, c'est la première...
La cavalerie volante, c'est celle de Nucci, je regrette.
Oui, c'est la cavalerie voleuse.
Jusqu'en 42, j'ai fait partie de la... voilà. J'ai été dans l'armée d'armistice.
Donc, vous avez été dans la même armée, tous les deux au même moment. Pas dans la même arme, mais dans la même armée. Et puis ensuite, Raymond Muel part en Afrique du Nord. Toi, tu restes à Paris.
Je monte à Paris, car l'armée allemande m'a démobilisé à Château. Et je m'étais fait pas mal de relations, et j'avais l'intention de devenir journaliste. Alors je suis parti pour Paris, et j'ai eu la chance d'être engagé. C'est comme ça que j'ai eu ma première carte professionnelle journaliste. Dans le Pays Libre, le journal Le Pays Libre de M. Pierre Clémenti. Nous étions déjà sur les Champs-Élysées, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de collaborationniste.
Ouais. C'était en quelle année, ça?
C'était en...
42.
Fin 42, début 43.
Oui. Oui, alors là, on était en plein. Qu'est-ce que c'était, Le Pays Libre?
Le Pays Libre, c'est un journal qui ne manque pas d'humour, parce que
oui,
ça veut sortir un hebdomadaire qui s'intitule Le Pays Libre alors que la France est occupée. Je trouve que c'est pas mal d'humour. Pierre Clémenti était un de ses chefs charismatiques d'une jeunesse nationale et socialiste, très populaire, etc. Il a fait comme beaucoup de patrons de groupes politiques à l'époque. Il a fait des allers-retours, il est allé en Russie, il est revenu, il était financé comme les autres par le patronat qui continuait à travailler sous les Allemands. Et je me suis donc trouvé à entrer dans cette carrière de chroniqueur politique et de reporter.
Et Raymond Muel, à l'époque, en 42, vous étiez en Afrique du Nord?
42, j'étais au Sénégal.
Au Sénégal. Et quelle image aviez-vous de cette France qui était lointaine et de ce Paris? Est-ce que...
L'image était extrêmement floue parce que nous avions très peu de nouvelles à partir du moment où les Allemands envahissent la zone libre, le courrier ne passait plus. Et à Thiès, qui est une capitale tout à fait relative, on n'avait que les bulletins officiels qui étaient affichés au Metz, ou bien le journal local, le Paris-Dakar, qui ne disait pratiquement rien.
Mais si on vous avait dit à l'époque, il y a un garçon de votre âge qui est à Paris, qui a été comme vous dans l'armée de l'armistice et qui s'est battu contre les Allemands en 1900, enfin jusqu'en mai 40, et qui travaille dans un journal qui soutient la collaboration avec l'Allemagne, quel sentiment auriez-vous éprouvé?
Ben, je pense que la première réaction, ça aurait été de le voir pour essayer de comprendre ses motivations, mais sans aucune haine ou acrimonie.
Et toi, Christian, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas fait ce qu'a fait le commandant Muel? Pourquoi tu n'es pas parti pour l'Espagne ou pour l'Afrique du Nord au lieu de monter à Paris?
J'en ai eu la tentative à un certain moment. Il faut jamais oublier que nous sommes formés par une jeunesse bien définie. Je suis un jeune collégien à Saumur, dans le rythme de l'école de cavalerie où mon père a été commandant en seconde de cette école, et je suis un activiste des jeunes d'Action française. Ma formation est là, elle est bien marquée. C'est-à-dire que dès 1940, on part pour Londres, et Griotret a eu raison de le signaler dans le Figaro hier, avant ce fameux débat. La droite, oui, c'est vrai, a été Bouton, tous ces gens d'Action française. Moi, j'ai fait partie de ces jeunes qui a suivi ceux qui étaient plus près de sa génération, c'est-à-dire les rebattels, etc., qui sont partis pour former et créer un journal qui a été Je suis partout. J'ai délaissé l'Action française et j'ai été un grand lecteur, un jeune et grand lecteur de Je suis partout. Ma formation politique s'est faite là, avec Je suis partout, et d'autre part à l'ombre de la guerre d'Espagne. Il ne faut pas oublier, si on ne remet pas les engagements des uns et des autres dans un contexte tout à la fois familial, d'éducation, d'études, mais aussi d'événements extérieurs qui ont des conséquences tout à fait décisives sur l'attitude que l'on va avoir par la suite, on ne comprend plus rien. Or, il est vrai qu'on a tous, les uns et les autres, eu des actions collectives aux côtés de camarades que l'on aime beaucoup. Mais chacun, et heureusement, a sa personnalité et sa propre définition intérieure de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut atteindre dans l'action qu'il entreprend. Quand je me suis retrouvé à Paris, suivant en cela le mauvais penchant qui avait commencé avant la guerre, et pas, déjà la guerre d'Espagne, il est vrai que si je me suis engagé dès le mois de septembre, ayant fini mes études secondaires, étant breveté de l'aviation populaire, car c'est une des choses que nous avait quand même apporté le Front populaire, de pouvoir faire en effet de l'avion dès l'âge de 15 ans, il est évident que j'ai eu cette réaction tout à fait nationale. La France est en guerre avec l'Allemagne. La seule chose que l'on peut faire, c'est d'être aux côtés de tous nos concitoyens et de nous battre là où la nation demande de se battre. Mais ensuite, la défaite est arrivée. Peu de temps après cette défaite, il y a eu tous les problèmes avec l'Union soviétique et la guerre contre l'Union soviétique dès 1941. Alors que j'étais encore, moi, sous le drapeau français, j'avais envie de partir. J'avais le désir d'aller lutter ce qui avait été mon ennemi originel depuis le début et qui avait été amplifié avec la guerre d'Espagne. Et comme j'étais un jeune fasciste, il faut bien le dire, n'étant pas encore pris et enivré, comme le croient beaucoup par l'idéologie nationale et socialiste, car la majorité, on peut le dire aujourd'hui, et tout le monde, ceux qui veulent rechercher un peu le savent, tous ceux qui ont été dans la division Charlemagne, pour la grande majorité, n'ont pas du tout eu l'éducation politique nationale et socialiste. Ils en sont sortis, d'ailleurs, par la suite, ils ont découvert petit à petit beaucoup de choses, mais ils n'ont pas été formés politiquement comme l'avaient été les communistes, avec cette facilité d'un but exact dans révolutionnaire, duquel on ne se détache pas avec... donc, dès le moment où on peut s'allier, et on peut être du côté des Allemands si l'intérêt du parti le veut, et du jour au lendemain, devenir de grands patriotes après avoir complètement saboté l'outil de guerre de la France. Donc, si on ne remet pas tout dans sa place, on ne comprend rien. Alors, pour en venir et puis pour aller très vite, quand je suis arrivé à Paris, je rencontre qui ? Rien que des phares, qui pour moi étaient des phares de la pensée, que ce soit de Drieu-La Rochelle, à Rebattet, à Cousteau, etc. Dès ce moment-là, me plie et prie. Et je m'engage donc comme journaliste. Et je dois dire que c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est parce qu'après les bombardements de Boulogne, où j'avais fait un reportage, et où j'ai vu des jeunes garçons, fils d'ouvriers, dont les pères, dont les familles avaient été tués par le bombardement anglo-américain sur Boulogne, qui se sont engagés sur le front de l'Est, que j'ai décidé, c'est une responsabilité, je dirais pas une responsabilité intellectuelle, ce serait trop fort, mais une responsabilité morale, j'ai décidé d'aller les rejoindre, et je vais te faire un aveu, mon cher Serge, je ne le regrette pas, ça a été une aventure, une expérience tout à fait unique.
On va en parler un peu après, d'ailleurs c'est l'histoire de ton livre, mais je voudrais me tourner vers le commandant Muel, parce que il a écrit ce livre qui s'appelle « Le bataillon des réprouvés » qui est paru aux éditions, aux presses de la Cité, et qui est consacré à raconter l'aventure, l'épopée de ces soldats qui avaient fait le même choix que toi, pour des raisons diverses, et c'est justement le sens de ma question, qui ayant fait le même choix ont été condamnés et emprisonnés à la libération, et à qui on a offert la possibilité d'une rédemption, d'un rachat, et surtout d'une sortie de prison, en les invitant à s'engager pour partir combattre en Indochine. Vous avez rencontré, commandant, pour faire ce livre, beaucoup de témoins.
Oui, un certain nombre de témoins, oui.
Alors, avez-vous l'impression que le cas de Christian de Lamazière est typique ou complètement atypique? Les gens que vous avez rencontrés, quelle a été généralement leur démarche? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a fait faire ce choix?
Je pense qu'il y a un certain nombre qui rejoignent tout à fait le cas de Lamazière, des gens qui étaient convaincus, qui étaient engagés politiquement et qui pensaient que c'était la meilleure formule. Et puis d'autres, je prends l'exemple de ce fils d'Italien dont je raconte l'aventure, qui pour remercier la France d'avoir accueilli ses parents, décide d'être français, de servir la France au mieux, et pour lui, ce qu'il a trouvé de mieux, c'est la Légion française, la Légion des volontaires français. Il pouvait pas y avoir mieux pour lui, et donc il s'est donc retrouvé à la LVF, puis à la Légion Charlemagne, en accord avec le fond de sa pensée. Il remerciait la France de cette façon-là.
Beaucoup de jeunes Français se sont trouvés en permanence à la limite de ce choix.
Absolument.
Et ont basculé d'un côté ou de l'autre sans que le caractère personnel, les convictions, le courage, la noblesse d'âme, etc., n'aient rien à y voir.
Non, je pense que les circonstances ont été, ce que disait Lamazière, les circonstances ont été essentielles dans nombre de cas. Le choix a été souvent accidentel, enfin si je peux employer ce mot. Ce n'était pas un choix préparé, mûrement réfléchi. On s'est trouvé pris les uns dans un système de pensée, dans une filière de copains, ou parce qu'on avait un professeur au lycée, c'était mon cas, qui parlait beaucoup de Monterland, des gens comme ça. Et puis d'autres, ils sont venus parce qu'ils avaient simplement les gendarmes aux fesses, ou parce qu'il y avait une fille qu'ils avaient mis enceinte. C'est une façon de partir, de mettre les voiles.
Ça, c'est la méthode gribouille, ça.
Oui, mais vous savez, le pays en est plein, gribouille.
Christian, quand tu étais dans la Waffen-SS, j'imagine que tu avais des échanges avec tes camarades de combat. Mmh. Est-ce que vous parliez des raisons qui vous avaient fait
Oui, bien sûr. D'abord parce que la France est vraisemblablement, le peuple français n'en déplaise à nos contradicteurs d'hier, ce bon peuple de France est un peuple plein de contradictions. Il y a 10 Français, il y a 5 tendances. Il y a 7 admirations pour des gens différents. Il y a donc, je veux dire que ces différences font tout à la fois, je dois le dire, dans certains cas très dramatiques, des gens exceptionnels, et parfois une lourdeur, une pesanteur que la discipline et la rigueur allemande a exactement contrôlée. Il y avait des gens de toutes tendances. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait plein de chefs, de Doriot à Darnan, de Clémenti à Déade, on peut en citer à Bucard, etc. Donc, des gens qui avaient suivi, et quand je regardais ces jeunes hier soir à la télévision, qui étaient de groupes, mais il y en a d'autres, de petits groupes, d'un seul coup, c'est le seul moment où ma jeunesse m'est remontée en mémoire. C'est qu'ils nous sont toujours semblables à ce que nous avons été. Mais nous avons été entraînés dans un système que nous ne connaissions pas, que nous on a découvert, et qui a été impitoyable dans ce domaine. C'est-à-dire que dans un minimum de temps, on a réussi à faire de ces gens qui étaient très divers, et je le raconte dans mon livre. Il y a un garçon comme Georges de la Buarret, qui était un aristocrate un peu anarchiste comme ça, et qui est merveilleux, qui a été le grand frère que j'ai toujours rêvé d'avoir et que je n'ai eu que pendant 3 mois, et qui a disparu et qui a été tué là-bas. Nos différences sont entrées dans un moule, comme il existe maintenant chez les parachutistes, à la Légion, etc. On peut faire la comparaison. Et c'est ce qui a fait que cette division Charlemagne a eu une existence, et le commandant Muel ne me contredira pas, une existence qui a été respectée pour la plupart, parfois admirée,
est tout au moins étonné, qui a provoqué beaucoup d'études chez les uns et chez les autres. Et ce qui a fait d'ailleurs que l'armée française ayant besoin véritablement de gens compétents pour aller se battre, pour reconquérir l'Indochine, ont tenté de récupérer dans ce vivier les gens dont ils avaient besoin. De surcroît, faut jamais oublier une chose, c'est que l'anticommunisme a été le grand dénominateur commun. Nous avons été depuis l'ouvrier, le fils d'ouvrier, jusqu'à l'aristocrate, en passant partout, par toutes les teintes sociales, nous avons été tous unanimes dans une lutte qui a été celle contre le marxisme.
Quand, commandant Muel, quand vous avez rencontré ces anciens du bataillon des réprouvés, vous les avez interrogés, j'imagine, sur les raisons pour lesquelles ils avaient décidé, quand on est venu les voir en prison, pour leur dire, voilà, vous avez un moyen de sortir de prison, c'est de vous engager dans le Bilhomme pour aller vous battre en Indochine. Alors, Christian de la Mézière nous disait tout à l'heure deux choses. Premièrement, il nous disait qu'historiquement, lui, mis devant cette situation, avait refusé avec plusieurs camarades cette solution. Et je lui demanderai tout à l'heure de nous expliquer pourquoi, quelle démarche l'a conduit à ce refus. Mais je voudrais vous demander, les témoins ou les acteurs de cette époque que vous avez rencontrés, quelle est la démarche qui, eux, les a convaincus? Est-ce que c'est une démarche? Est-ce que l'histoire du rachat ou de la rédemption, parce que c'est la deuxième chose que nous disait Christian de la Mézière, il dit « je ne regrette rien ». Quand on ne regrette pas, on n'éprouve pas le besoin de se racheter. Par conséquent, la question, je crois, est intéressante de savoir si ces gens qui étaient en prison en 1948-49, qui purgeaient une peine lourde pour fait de collaboration armée, pour fait de haute trahison, etc., si ces gens avaient l'impression qu'ils avaient besoin de se racheter, ou s'ils ont fait ça uniquement pour sortir de prison, pour aller au casse-pipe une fois de plus, parce qu'ils y avaient pris goût.
Ben, j'ai d'abord rencontré également des gens qui avaient refusé de participer à cette aventure, parce qu'ils ne voulaient pas, disent-ils, servir la France dans l'état où était la France en 48. Mais quant à la motivation de ceux qui sont partis, il n'y a vraiment aucun désir de réhabilitation. C'est un mot qu'ils ont tous refusé de prononcer. Ils n'avaient pas à se racheter ni à être réhabilités de quoi que ce soit. Ils voulaient sortir de prison, ça c'est l'argument essentiel, mais ils voulaient prouver aussi leur courage et leur attachement à certaines vertus morales et à certaines vertus guerrières qui étaient la règle essentielle de cette affaire, de cette aventure.
Je trouve extraordinaire ce que vous dites, parce que je pense toujours aux jeunes gens, et il y a souvent des jeunes gens qui viennent dans les réunions où je suis pour me dire on écoute votre émission, des jeunes de 16 à 30 ans, et je pense à leur stupeur quand ils entendent ça. C'est-à-dire que dans la situation d'ensevelissement idéologique où on se trouve aujourd'hui, le simple fait de dire qu'un homme qui a combattu 2 ans, 3 ans dans la Waffen-SS, sous l'uniforme de la Waffen-SS avec l'écusson France, le seul fait de dire que cet homme rentré en France est arrêté, condamné, jeté en prison et dans quelles conditions, et que cet homme dit « moi je ne regrette pas ce que j'ai fait », c'est absolument stupéfiant, parce que on nous trace aujourd'hui l'image, la caricature de traîtres abjects qui sont rentrés les chines courbées sous la férule des vainqueurs et qui n'avaient que rien de plus pressé que de se faire oublier ou de se faire pardonner leur trahison. Christian.
Oui, je vais ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. La vie n'est pas la même pour tout le monde. Il n'y a pas de justice sur Terre. Et les gens ne sont pas égaux. C'est-à-dire que certains d'entre nous, et j'ai fait partie de cela, et j'ai tenté de l'expliquer dans mon livre, ce qui est tout à la fois une forme d'orgueil, mais aussi une attitude relativement humble, c'est de montrer que j'ai fait partie de ceux qui avaient la chance, par ma famille, par beaucoup de choses, de ne pas subir les mêmes méfaits qu'ont subi beaucoup de mes camarades, qui ont été torturés, humiliés, qui se sont trouvés dans des situations épouvantables. j'ai été moins condamné que beaucoup. Il faut se mettre dans la peau de gens qui avaient 10 ans, 20 ans à faire, et d'un seul coup leur proposer de sortir, de retrouver les armes, et après tout, quelque chose de, qu'ils avaient appris à bien faire, et dont ils pouvaient, dont ça pouvait être un aboutissement. J'ai connu un de ceux très bien, parce que j'ai pas reconnu tous les noms qui ont été changés, mais un nom changé que j'ai bien connu, qui est mort, voilà, peu de temps à Lyon, et dont son frère était aussi à la Waffen-SS. Je citerai pas son nom. Enfin, si on peut peut-être, puisqu'il est mort. C'est Barrelon. Je me souviens donc que vraisemblablement c'est lui que vous avez interrogé, qui a fini comme capitaine d'ailleurs chez vous, qui est mort, qui a été blessé, qui a été, etc. Je l'ai vu quelques mois avant sa mort. Son frère et moi, nous sommes allés dîner ensemble. Je dois dire que ils sont retournés vers une armée française. Après tout, beaucoup n'avaient pas pris l'uniforme français avant. Ce n'était pas un rachat, ils ne regrettaient rien, mais c'était aussi une forme de retour à la normale des choses. Je sais, beaucoup de gens ont attaqué la 4e République, qui a commencé à ouvrir les prisons, je l'ai défendu pendant longtemps. Je pense que le retour de Gaulle a été le retour de la haine résistentialiste et à nouveau du retour des communistes. Il faut reconnaître qu'à l'époque de la 4e République, les communistes en avaient pris un coup avec toutes les histoires de Budapest, etc. Un grand coup. Et pour nous, pour certains, il était bon de reprendre un uniforme français. C'était être réhabilité dans sa nationalité qu'on lui avait enlevée. Car il ne faut pas oublier que toutes nos condamnations étaient assorties par quelque chose que l'on voudrait remettre, que les socialistes et une droite institutionnelle voudraient remettre, réintroduire dans nos lois, c'est l'indignité nationale. Et l'indignité nationale, c'est pire que d'être condamné à n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus français. On n'a plus de droit ni à un passeport, ni à créer une société, ni rien. L'indignité nationale vous enlève tous les droits d'être français. Et je comprends pour beaucoup qu'ils se soient engagés. Mon cas était différent, j'ai refusé parce que j'avais un compte à régler avec l'armée française, mais aussi parce que je n'avais été condamné qu'à 5 ans de prison et seulement 10 ans d'indignité nationale, et que j'avais 99 chances sur 100 d'être gracié très vite et de sortir et immédiatement de reprendre une place normale dans la société avec toutes les amitiés et les appuis que je pouvais avoir. Donc pour certains, ils ont continué, ils ont payé le lourd tribut d'un engagement, et comme l'a si bien écrit le commandant Muel, ils n'ont pas été pour beaucoup estimés à leur juste valeur, et de la façon dont ils ont été traités avant d'être envoyés en Indochine, je l'ai découvert, j'en avais entendu parler, mais je l'ai vraiment découvert à travers le livre du commandant Muel, et c'est quelque chose qui m'a tout à la fois étonné et beaucoup touché.
Vous nous disiez, commandant Muel, que ce bataillon des réprouvés a compté en tout 450 hommes.
Au maximum, oui.
Maximum. Quelle a été la proportion des pertes en Indochine, vous le connaissez? Est-ce qu'elle a été supérieure à celle des autres unités?
Non, elle a été tout à fait dans la norme d'une bonne unité sérieuse, une bonne unité de combat. Ils ont dû laisser sur le terrain une vingtaine de morts.
Et quand ils sont revenus, comment ça s'est passé pour eux?
Mais ceux qui avaient certaines relations en France ont pu faire suivre leur cas par un avocat ou par une famille qui pensait à eux, et ceux-là ont bénéficié d'une amnistie dès leur retour. Mais l'autre, ceux qui n'avaient rien, se sont trouvés avec des problèmes absolument insolubles, avec la dignité nationale, donc une peine qui n'était pas terminée, l'interdiction d'avoir un compte chèque, aucun droit sur la famille.
Parce que, pardonnez-moi, les condamnations n'ont pas été... Je me mets à parler comme Guillaume Durand, je dis pardonnez-moi tout le temps, il faudrait que je me fasse passer ce tic imbécile. Je veux dire, pardonnez-moi de vous couper, de vous interrompre, mais les condamnations qui avaient été prononcées avant leur engagement dans le Bilhomme, n'ont pas été levés.
Non, l'engagement produisait simplement une grâce suspensive.
C'est-à-dire
c'est l'histoire des 12 salopards. Je ne sais pas si vous avez vu ce film,
oui,
les 12 salopards.
Sûr, c'est ça.
On disait
à ces gens, vous serez réhabilités à condition que vous ayez gagné, vous prouviez par votre conduite au feu que vous êtes digne de figurer de nouveau sur les listes françaises.
Et qui a eu cette idée?
Oh ben, je pense que c'est le clan MRP de l'époque, Monsieur Marie, le général Revers, pour des raisons beaucoup plus pratiques, lui il avait besoin d'effectifs, mais le MRP qui avait lancé l'affaire s'est très rapidement dégonflé sur la pression communiste.
Tiens, c'est étonnant.
C'est Galti Boissière qui avait dit du général Revers, général comme son nom l'indique. il faut dire aussi que faut pas oublier la libération en France. Amène les communistes à la porte du pouvoir et ils ont un poids énorme. On va parvenir sur toutes les exactions que l'on connaît, sur tout ce qui s'est passé à la libération et qui a été vraiment terrible. Mais les communistes n'étaient pas pour la reconquête de l'Indochine.
Sincèrement,
comme tu l'imagines. Ils ont, dès ce moment-là, un poids sur l'armée française énorme. Ils ont commencé à infiltrer l'armée française. Ça a été leur tentative de première infiltration, qui a été après limitée, et justement à l'époque de la 4e République, et ça a recommencé par la suite, quand le Parti communiste a conseillé à de brillants sujets des fils de communistes de préparer Saint-Cyr et d'entrer à Saint-Cyr. Et ça a été la deuxième tentative.
Et dans les
séminaires. Qui a été encore, oui. Donc il y a un grand livre à faire là-dessus quand on aura toutes les archives sur les tentatives de pénétration de l'armée française par le haut, c'est-à-dire par les officiers. Et il fallait bien trouver de la troupe pour partir pour l'Indochine et la Corée, car la première grande bataille contre les communistes après la fin de la guerre, c'est la guerre de Corée. Et il a bien fallu trouver des volontaires. Et il y a eu quelques-uns de la division Charlemagne ou de l'ALVF qui se sont retrouvés en Corée.
Mais dans ceux du Bilhomme, je cite l'exemple d'un garçon qui d'abord est passé par la FSS, s'est retrouvé au Bilhomme, après un séjour au Bilhomme est parti en Corée, et après la Corée est revenu en Indochine, s'est fait cravater sur les plateaux Moy, et libéré en même temps que ceux de Dien Bien Phu, s'est fait braster parachutiste en rentrant, et a fait ses 4 ans, 5 ans en Algérie.
Ce que je voudrais te dire, Serge, si tu permets quand même, parce que tout à l'heure, si on n'a pas le temps, je vais faire une conclusion avant. De la façon dont j'explique ça, avec passion, parce que c'est notre jeunesse, parce que c'est plein d'images, de souvenirs tristes, mais aussi de souvenirs encourageants. Notre nostalgie n'est pas du tout et à aucun moment, pour la grande majorité, on a chez nous... quelques nostalgiques qui continuent à rêver nos grandes traditions de la Waffen-SS. Mais ce n'est pas le cas pour la grande majorité. Nous sommes des gens, et là je suis très très fier de le dire, quand on parle d'intégration, nous on a su ce que c'était que le problème de la réintégration. Nous n'avons jamais trouvé un ancien de la Waffen-SS dans un mauvais coup, crapuleux, tout au moins qu'il soit de notoriété publique par l'intermédiaire de la presse. Nous n'avons eu personne de chez nous qui ait fait les mille et un coups, oui, qui se soit mis au service d'hommes politiques à une certaine époque pour un besoin matériel immédiat. Tous se sont réintégrés dans la société. Certains sont devenus secrétaires généraux de la police à Paris, à une certaine époque. Certains sont devenus sous-préfets. Certains sont devenus de grands industriels. Certains ont eu des vies exemplaires, et même leurs femmes et leurs enfants ont tout ignoré pendant toute leur vie. Aujourd'hui, ils sont à l'âge de la retraite. Et comme ces cachalots qui manquent d'eau, ils sortent de l'eau, viennent sur le rivage et viennent nous retrouver. Un peu comme ça, tout tristes d'avoir fait passer leur vie personnelle avant tout. Mais ils ont bien fait, ils viennent nous retrouver. Alors là, ça va être la deuxième précision, parce qu'elle est importante. Il y a eu dernièrement, dans VSD, le journal que l'on connaît bien, dirigé par des gens que nous estimons beaucoup,
absolument,
un reportage sur nos réunions en Autriche. Réunions qui sont parrainées par l'armée autrichienne. Et immédiatement, ça a été des écrits épouvantables avec des photos expliquant la renaissance du nazisme. Bien, je vais te dire une chose. D'abord, il y a tout, de la Wehrmacht à la Luftwaffe, de la Luftwaffe à la Kriegsmarine, des Waffen-SS qui ont été reconnus comme combattants et rien à voir avec tout le reste de l'appareil SS depuis de M. Adenauer, et même reconnus par le général de Gaulle comme étant des anciens combattants et non, aucun n'a été poursuivi pour crime de guerre, se réunissent donc en Autriche comme anciens combattants contre la Russie. Depuis 3 ans, des officiers américains et des officiers russes, des officiers anglais, viennent participer à ces réunions. Ce n'est pas la première fois, le maréchal Juin l'avait fait pour les anciens de Cassino, où les anciens Waffen-SS allemands ont retrouvé ceux qui les avaient vaincus après des mois et des mois de bataille sur à Cassino. Mais ça, c'était à l'époque de la 4e République, et ça passait beaucoup plus facilement. Donc voilà ce que c'est. Alors quand on dit, et il est évident, quand on voit celui qui est le plus décoré de chez nous, Fenet, avec sa croix de fer autour du cou, parce qu'il est chevalier de la croix de fer, faire un discours au nom des Français, je vois rien de là, quelque chose qui soit abominable. Et quand il est évident que quand nous allons en Normandie et que nous voyons ce grand cimetière des jeunes Allemands de la Waffen-SS qui sont enterrés là, nous on y va, on les salue et nous sommes salués par les Canadiens ou les Anglais ou les Américains qui viennent voir leur cimetière. Les choses sont ainsi entre combattants, entre gens qui se sont battus. Une fois que les armes se sont tues, il y a une estime qui s'installe, et je le regrette, c'est vrai, c'est comme ça, nous avons des officiers russes, je ne sais pas s'ils sont toujours communistes ou pas, mais ils viennent à notre grande réunion en Autriche, c'est une grande réunion d'anciens combattants, nous n'avons pas honte, n'en déplaise aux dirigeants de VSD, nous n'avons pas honte, et nous ne sentons pas des Français de 36e zone cachés en train de faire une messe mystique interdite aux bonnes âmes de notre pays.
Moi, je crois comme la Mazière à la fraternité des hommes de guerre.
Vous l'avez rencontré justement avec ce bataillon des réprouvés.
Je l'ai rencontré en Indochine. Et leur premier tué, c'est un légionnaire que nous leur avions prêté pour servir de radio. Et j'ai croisé ces gens-là, et puis je les ai oubliés. Et puis, par hasard, un jour, j'ai pensé que ça faisait partie des témoignages à mettre sur le tapis. Parce qu'on n'a pas le droit d'ignorer le sacrifice de ces gens-là.
Vous avez eu du mal à faire ce livre, à le réaliser?
J'ai pas eu de mal à le réaliser, parce que j'ai trouvé quelques archives au service historique à Vincennes, et puis j'ai trouvé des témoins de bonne volonté. J'ai trouvé d'autres des témoins, mais après avoir rédigé le livre, et je le regrette, parce que j'aurais eu des histoires beaucoup plus intéressantes encore à raconter. Par exemple, comment un des clandestins du Bilhomme a été le nègre de Pierre Sabag pendant sa clandestinité, ou des choses de ce genre. Mais les difficultés ont commencé au moment de la parution du livre. La première édition a été pilonnée, alors qu'elle était déjà en librairie, parce qu'elle est sortie au moment de l'affaire Touvier, le rebondissement de l'affaire Touvier. Et ce ne sont pas les acteurs qui m'avaient donné leur nom et qui me disaient « tu peux y aller », ce sont les familles qui ont pris peur. Les familles ont pris peur, ont écrit à l'éditeur, alors l'éditeur a complètement paniqué, et il a fait pilonner ce qui n'avait pas été vendu. Enfin, il y a déjà 2000 exemplaires de vendus. Bon, il n'y a pas eu d'histoire, bien sûr. Et on a refait le bouquin en mettant des pseudonymes à la place des noms propres.
Et là, il est en vente maintenant.
Il est en vente, oui, on l'a même réédité, il vient de ressortir, on a fait une réédition, une petite réédition. Mais que l'éditeur s'est bien gardé de signaler.
la prudence est mère de sûreté. Alors on va lui faire de la peine, on va quand même signaler donc que c'est le bataillon des réprouvés qui est publié.
Monsieur Raymond Muel.
Raymond Muel qui est publié aux presses de la Cité.
Dans la collection Troupe de choc.
Dans Troupe de choc de Jeannine Ballant. Et puis le rêveur casqué, alors la réédition du rêveur casqué qui était introuvable depuis 10 ans au moins. Mmh. Qui vient d'être publié chez Albatros. Le rêveur casqué de Christian de la Mazière. Et pour terminer, je donnerai la parole à un auditeur. J'espère qu'il nous permettra de dire son nom, puisqu'il l'a signalé. Il s'agit de Norbert Carbonneau, qui dit « La prochaine fois que nous aurons 20 ans, rêvons ailleurs que sous un casque. »
Oui, pourquoi pas.
Moi,
on rêve toujours, on n'a pas besoin de casque.
Non, mais je trouve qu'un casque, au contraire, est parfait pour rêver.
Merci, commandant Muel.
Et moi, j'ajoute que l'émission, enfin, d'aujourd'hui, sera suivie samedi 7 décembre, à partir de 15h30, d'une dédicace de ses ouvrages à la librairie de la Joyeuse Garde, 24 rue de l'Amiral Roussin, 75-015 Paris.
Tous les deux.
Tous les deux.
On pourra donc rencontrer Christian de la Mazière pour le rêveur casqué, le commandant Muel pour le bateau.
Samedi prochain, à 3h30.
Merci, messieurs. Il nous reste quelques minutes, Serge, pour faire un point de la campagne pour les élections. J'arrive jamais à trouver le mot exact. Je sais pas s'il y a pas
régional. Oui. Il faut dire que les Parisiennes savent c'est.
On n'a pas l'impression d'être des régionaux.
Oui, effectivement. Mais il se trouve qu'il y a un conseil régional qui gère un budget très important puisque il construit, il participe au financement de toutes les infrastructures, collèges, lycées, routes, etc., toute la région. Alors ça peut paraître sans grande importance puisque c'est finalement de l'intendance simplement, mais l'intendance, ce n'est pas vous messieurs qui me contredirez, peut donner à des batailles suivant qu'elle est bien menée ou mal menée des tournures tout à fait différentes. Alors il faut être présent, la campagne se déroule bien. Alors d'abord parce que nos militants commencent à se mobiliser, c'est très agréable de voir que alors que l'échéance est en mars, c'est donc assez lointaine, les gens bougent déjà. Je crois qu'ils ont pris conscience de
la réunion qu'on avait annoncée de Bruno Maigret avec toi qui s'est déroulée lundi, c'est ça?
Elle a été un franc succès, mais toutes les réunions, c'est ce qui me fait être optimiste puisque c'est la troisième. Il y en a eu une avec Marie-Caroline Le Pen il y a 15 jours, ou il y a une semaine, non, il y a 15 jours c'était Bernard Anthony, puis Marie-Caroline Le Pen, puis Bruno Maigret. Alors c'était celle des agriculteurs. Beaucoup de nos auditeurs connaissent cette salle, et bien il faut savoir que non seulement elle était pleine, mais il n'y avait pas assez de place puisque beaucoup de gens étaient debout. Ça prouve bien sûr, Bruno Maigret est une vedette, je crois que nous allons l'entendre tout à l'heure peut-être, non?
Oui.
Mais en tout cas, il a fait venir beaucoup de monde, mais les salles sont toujours pleines et la prochaine réunion sera le lundi 16 décembre. Alors nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Yves Le Gallou. Elle aura lieu dans le 15e, salle Montcassin, 164 rue de Javel, à 20h, et elle sera certainement pleine. Alors je recommande à nos amis de venir relativement tôt pour ne pas rester debout. Alors ça, c'est la première des choses. Et puis autre chose intéressante, c'est que nous avons beaucoup affiché. Et il se trouve que, eh bien, à partir de, donc, depuis le 1er décembre, eh bien, nous arrêtons d'afficher, pour la campagne proprement, parce que la nouvelle loi sur le financement des partis fait qu'aucun candidat ne peut s'afficher 3 mois avant le scrutin. Alors, bon, le Front National et mon équipe, nous étions prêts. Et nous avons donc pu afficher pendant 3 semaines ou 4 semaines tout seul, si bien que les futurs candidats du RPR, de l'UDF, du Parti Socialiste, qui ne sont pas encore désignés officiellement, eh bien, ne pourront pas afficher, ni en commercial, ni en sauvage. Et donc, je ne sais pas comment ils feront. Alors, ils vont faire comme ils font d'habitude. Après avoir voté une loi qu'ils ont mis eux-mêmes au point, ils vont allègrement la violer. Si bien que, très prochainement, on va voir leurs affiches en contradiction avec la loi qu'ils ont votée eux-mêmes sur les murs. Et à ce moment-là, eh bien, nous recommencerons à afficher, car évidemment, si nous affichions aujourd'hui, parce que nous sommes beaucoup plus efficaces qu'eux, étant les seuls à afficher, nous serions sévèrement poursuivis. Alors que là, à partir du moment où les députés truandent eux-mêmes, eh bien, nous pensons que nous qui n'avons rien à nous reprocher, surtout pas d'avoir voté cette loi, eh bien, nous pourrons le faire sans complexe et sans trop de risques.
Mais il va y avoir du travail pour nos colleurs. Alors, tu veux nous rappeler de la réunion avec Le Gallou
à... On la rappellera parce que c'est un petit peu loin encore d'ici là, mais bon, c'est effectivement le 16 décembre, un lundi, à 20h, salle Montcassin, 164 rue de Javel, dans le 15e arrondissement. Alors Jean-Yves Le Gallou, qui est le responsable du groupe Front National sortant, puisqu'il est déjà élu au conseil régional, et il dirige le groupe de nos anciens élus. Il y en a eu 5 à Paris, donc nous pouvons être optimistes, nous aurons certainement 6, 7, 8, 9, 10... Pourquoi pas plus? Je crois qu'il ne faut pas fixer de limite à la bonté de Dieu.
Eh bien, nous aurons donc le plaisir de recevoir Jean-Yves Le Gallo qui parlera du programme du Front National pour le développement de l'agglomération parisienne.
Merci Serge. Très vite, on a encore quelques minutes pour des annonces, alors on va les faire. J'ai reçu une lettre d'un monsieur qui est membre du bureau exécutif du SNPMI que j'avais étrillé assez méchamment la semaine dernière. Cette lettre est un peu longue pour que j'en donne la lecture ce soir, mais ce monsieur proteste contre la lâcheté toute journalistique avec laquelle j'ai émis sur l'antenne des insinuations perfides concernant le SNPMI et ses dirigeants. J'ai pas fait d'insinuation perfide, j'ai dit qu'ils n'avaient aucun courage politique parce que ce sont des gens qui ont une petite sinécure syndicale et qui sont bien contents de l'avoir et qui croient qu'ils vont changer les choses en étant péteux sur le plan politique. Et je leur ai dit la semaine dernière, ce que je répète cette semaine, comme ça vous n'arriverez à rien. Si vous êtes des lâches, vous ne réussirez à rien. Mais moi je dis ça du haut de mon fauteuil et par l'intermédiaire de mon micro, je ne vois là-dedans aucune lâcheté journalistique. Je dis simplement que quand les gens du SNPMI, je vais expliquer cette histoire, acceptent que leur président donne une interview dans le cadre des entretiens courtois publiés par Minute La France.
Je vais me permettre de te corriger, Serge. Il n'accepte pas, il demande.
Demande, exactement, tu as raison. Demande que soit publiée une interview. Et la veille de l'interview, nous font savoir que non, finalement, le bureau exécutif ou je ne sais quelle instance du syndicat a décidé que cette interview ne serait pas publiée dans Minute La France parce qu'il ne fallait pas, il faudrait pas donner au SNPMI une coloration politique. Ben, je dis que ce ne sont pas des gens de parole, ce ne sont pas des gens sérieux, et je répète, politiquement, ce sont des péteux, et ils n'obtiendront rien, ils réussiront à rien avec des dirigeants comme ça. Je suis désolé de faire de la peine à cet auditeur, car ce monsieur est un auditeur de Radio Courtoisie. Il me dit, la sympathie que j'ai prouvée en vous écoutant sur Radio Courtoisie, en vous lisant souvent dans Minute La France, m'avait fait oublier votre métier, et il ajoute, c'est avec une lâcheté toute journalistique que vous avez émis sur l'antenne des assignations perfides concernant le SNPMI. Je répète, il n'y a pas d'assignation, il y a l'affirmation d'une certitude, c'est que avec des méthodes de ce genre et des dirigeants de cette qualité, un syndicat national des petites et moyennes industries ne peut pas réussir. C'est une impossibilité assurée. Voilà. Donc, d'autres informations, d'autres nouvelles. Nous avons un déjeuner-débat qui est organisé le dimanche 8 décembre, c'est-à-dire dimanche prochain à partir de 10h et jusqu'à 17h. Une approche chrétienne de l'immigration, c'est une conférence, l'amiral Berger. Ça se passe à Renaissance catholique 89, rue Pierre Brossolette 92 130, dimanche à partir de 10h, métro Mairie d'ici. Le prix est de 90 francs et 60 francs pour les adhérents de Renaissance catholique. Le mardi 10 décembre 91 à 20h30, à la Maison des Arts et Métiers 9 bis avenue Diéna, Paris 16e, grande soirée d'amitié française et de chrétienté avec Thibault de la Tocnay, Alain Sanders et Bernard Anthony pour la Croatie et la résistance chrétienne dans le monde.
C'est la même.
Vous voulez pas m'en donner une autre alors?
Attends, je sais pas.
Alors, le dimanche 15 décembre 91, à 17h en l'église Saint-Nicolas, 23 rue des Bernardins, 75 005, grand concert de Noël par le chœur Frangelico sous la direction d'Outrebante et de Becker. De Becker, ne confondez pas. Hein. Alors, Jean-Paul Imbert, entrée libre, et vous aurez également la possibilité d'acheter des cadeaux de Noël, notamment des enregistrements. Je vous rappelle à propos de cadeaux de Noël qu'il faut absolument offrir à vos enfants ou à vos neveux et nièces ou à vos filleuls et filleules le très très joli la très jolie cassette, le très joli livre cassette du conte du père Mansour Labaki qui s'appelle Noël aux confins de la tente. L'adresse c'est édition Lotédal, 38 rue des Épinettes, 75 017 Paris. Et une dernière annonce et nous écoutons Bruno Maigret.
La fondation Brigitte Bardot vous invite à venir nombreux le dimanche 1er décembre de 11h à 17h sur la scène de bateau à quai feront office d'Arche de Noé. Chiens et chats, tous vaccinés, etc. vous y attendent.
Alors ultime, mardi 10 décembre de 17h à 21h chez Pinatel, 22 rue Saint-Paul, Paris 4e, un pot de l'amitié avec vente signature comme tous les ans, des cartes de vœux et des albums et également signature d'André Figueras qui dédicacera ses ouvrages. Henri Hérault sera là également avec son dernier livre illustré par Pinatel, 10 décembre 17h, 22 rue Saint-Paul, Paris 4e.
Et la dernière des dernières, de toutes les dernières, c'est les signatures, mercredi 11 décembre Fac d'Assas, le père Labaki, Serge de Becacciel, Sanders et à nouveau samedi 7 décembre, le rêveur casqué Christian de la Mazière, bataillon des réprouvés, à la librairie de la Joyeuse Garde, 24 de l'amiral Roussin.
Bataillon des réprouvés du commandant Muel.
Oui, pardon.
Les Français ne le savent pas, mais ce qui se prépare à Maastricht est très grave. Il s'agit ni plus ni moins d'entraîner la France dans une fédération mondialiste où notre pays perdra son indépendance, sa souveraineté et les nécessaires protections indispensables pour affronter le monde dangereux de cette fin de millénaire. Comme l'a dit Jean-Marie Le Pen, il s'agit d'un véritable crime contre la France, car l'Europe qu'ils veulent faire est une Europe qui non seulement détruit les nations, mais aussi l'Europe elle-même comme communauté de civilisation. Car en même temps qu'on supprime les frontières entre les pays européens, on supprime aussi les frontières entre l'Europe et le reste du monde, faisant ainsi de notre continent un simple espace où s'engouffrent les hommes et les produits venus du monde entier. J'ajoute que la méthode pour atteindre cet objectif est totalement antidémocratique, puisque le traité qu'ils veulent signer à Maastricht est contraire à notre Constitution et qu'il faudrait donc un référendum pour l'entériner. Il est vrai que la construction européenne se fait quotidiennement contre la volonté des peuples, par des technocrates irresponsables, ceux de la Commission, qui décident sans contrôle et sans préoccupation de l'intérêt des nations. Bien curieuse entreprise que celle de Maastricht, alors que les fédérations se désagrègent, la Yougoslave, la soviétique, que l'ère des grands blocs s'achève, on voudrait en Europe créer un bloc et une fédération. C'est absurde. L'avenir est ailleurs. Il est dans l'organisation de l'Europe des patries, permettant à chaque nation de préserver son identité et de retrouver sa puissance.
Alors, dernière chose, le neveu de Roland César qui nous a contacté par téléphone peut rappeler Christian de la Mazière tout de suite à Radio Courtoisie ou le joindre par l'intermédiaire de Minute La France demain en téléphonant au 40 05 10 91. Merci de votre attention, merci messieurs, merci Victoria, bonne semaine. Je ne serai pas parmi vous la semaine prochaine, c'est Paul Robert qui assurera l'intérim. Et donc à dans 15 jours, si Dieu veut, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Une émission du 4 décembre 1991, rediffusée dimanche 9 mai 2010 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.